Europe Matin, le 5-7.
Sébastien Krebs.
Écoutez le monde changer.
Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur Europe 1. Bon réveil, il est presque 5h. On se réveille ensemble comme chaque matin. Merci d'être au rendez-vous. Nous sommes le mardi 3 novembre.
J'ai rien fait, c'est pas
les
moi.
Les plexiglas s'effondrent dans le studio. Merci Paul Lassen pour cette entrée en trombe. Bonjour.
Bonjour.
Et bonjour Amblin Roche.
Bonjour, cassez pas le studio s'il vous plaît.
Toute l'équipe est là, on va se calmer un petit peu. On va revenir dans un instant sur cette information de la nuit, cette attaque terroriste qui a frappé Vienne, la capitale autrichienne, des tirs dans plusieurs points de la ville, aux abords de bars et de restaurants, près d'une synagogue. Encore pas mal de confusion, on va vous donner les tout derniers éléments dès le début du journal de 5h. Et puis l'autre grand titre, c'est évidemment le jour J, Trump. Biden, les États-Unis jouent non seulement leur destin, mais peut-être aussi celui du monde. Et la campagne a continué, là, jusqu'au bout de la nuit, ces dernières minutes, avec deux ambiances.
We will make America great again. Thank you, Pennsylvania. Thank you, Pennsylvania.
Donald Trump, habitué désormais à danser sur YMCA à la fin de ses meetings. Et côté démocrate, ça donnait plutôt ça. Ah, c'est chic, Lady Gaga au piano dans un meeting de Joe Biden. Voilà les dernières forces dans la bataille. On va y consacrer un pressing spécial américain ce matin tout à l'heure. Et on va voir, Paul, que la campagne se joue aussi dans le monde virtuel.
Oui, absolument. Joe Biden qui se lance dans les jeux vidéo. Il l'avait déjà fait avec Animal Crossing. Cette fois-ci, c'est Fortnite. Et je vous raconterai ça dans le pressing dans 25 minutes.
Voilà, on joue la campagne aussi dans à l'intérieur même des jeux vidéo. Amblin, la partition à l'heure américaine aussi.
Oui, il a toujours refusé de rester figé dans cette image d'icône de la contestation. Bob Dylan a incarné la légende de la protest song jusqu'en 1965, jusqu'à rompre avec la folk pour se tourner vers une musique plus électrique.
Bob Dylan, dans la partition, là on est vraiment en Amérique, ce sera à 6h10 tout à l'heure. À tout à l'heure,
à tout à l'heure.
La campagne américaine, bien sûr, avec tous nos envoyés spéciaux tout au long de la matinale et à 6h15 avec mon invité inattendu. Et vous verrez que c'est assez étonnant. Lui a créé un jeu vidéo pour rejouer le combat Trump-Biden. Mais alors cette fois, c'est un combat de boxe et à main nue. Vous verrez, c'est pas très sérieux, mais c'est un clin d'œil amusant. Le reste du programme ce matin, à 5h40, on reviendra sur l'hommage à Samuel Paty dans les classes hier avec un prof d'histoire, Nicolas Anoto. Vous le connaissez, il enseigne dans un collège de Béziers. Il est déjà venu nous voir il y a 10 jours, il va nous raconter de l'intérieur comment ça s'est passé hier matin avec ses élèves. Et puis, comment mieux faire entendre la voix des musulmans de France face au terrorisme. Hier, plusieurs représentants se sont réunis pour adresser un message au monde musulman et condamner les manifestations anti-françaises dans le monde arabe. L'un de ses représentants, l'ancien président du CFCM, Anouar Bibesh, est mon invité à 6h40. Voilà pour le programme. Bonjour Laurent Cabrol.
Eh bien bonjour à tous et bonjour Sébastien. La pluie s'est déplacée, elle gagne maintenant les régions de l'Est, la Lorraine, l'Alsace, une partie de la Bourgogne, l'Auvergne et les régions du Sud-Ouest. C'est une zone de pluie que nous connaissons puisqu'elle était là hier. Eh bien là, nous la retrouvons dans le Sud et avec des températures, attention, en baisse de manière spectaculaire, entre 12 et 15 degrés seulement cet après-midi.
Allez, quelques détails en plus tout à l'heure. À tout à l'heure, Laurent Cabrol.
Europe Matin, le 5-7. Sébastien Krebs.
Et je salue François Geffrier. Bonjour François.
Bonjour Sébastien, bonjour à tous.
Votre premier journal de la matinale, il est 5h.
Comprends.
Des coups de feu dans 6 lieux différents d'une capitale européenne, c'est l'Autriche qui est touchée. Vienne, hier soir, plusieurs morts, une quinzaine de blessés. Les dernières précisions sur cette attaque dans un instant. L'élection la plus suivie au monde, c'est aujourd'hui que doivent être départagés Joe Biden et Donald Trump pour le prochain mandat de président des États-Unis. Démocrates et républicains divisent la société américaine jusque dans les familles, vous l'entendrez. Et puis les jouets, le maquillage, les vêtements, les meubles, que peut-on acheter finalement dans les supermarchés pendant ce nouveau confinement? On y voit un peu plus clair ce matin, mais il y a un nouveau délai pour la fermeture des rayons concernés.
Les sports à suivre après le journal et notre pressing et puis les doigts dans l'assiette avec nos agriculteurs. Nous serons dans l'Oise ce matin. Bienvenue à tous, il est 5h01.
Europe 1, écoutez le monde changer.
Une attaque terroriste répugnante pour le chancelier autrichien Sébastien Kurz, son pays soutenu aussitôt par Emmanuel Macron, Angela Merkel et de nombreux dirigeants européens. La capitale, Vienne, touchée hier soir par des attaques à l'arme à feu.
Bonjour Jeanne Bergaoui.
Bonjour.
Dites-nous ce que l'on sait à ce stade ce matin et commençons par le bilan humain.
Eh bien, ces fusillades ont fait au moins 2 morts, un passant abattu dans la rue et une femme décédée de ses blessures. Alors, il s'agit d'un bilan provisoire qui pourrait s'alourdir puisqu'il y a 15 personnes hospitalisées, dont 7 dans un état grave. La police annonce également avoir tué un assaillant lourdement armé, équipé d'un fusil d'assaut automatique et d'une machette. Selon Karl Nehammer, le ministre autrichien de l'Intérieur, un autre suspect est toujours en fuite. Les circonstances de l'attaque commencent à se préciser et les premiers coups de feu ont été entendus hier soir vers 20h. Des témoins évoquent des centaines de tirs de rafale. Selon la police, ce sont 6 lieux différents en plein cœur de la capitale qui ont été visés. L'attaque aurait commencé à proximité d'une synagogue qui était vide au moment des faits. Puis d'autres endroits comme l'opéra ou des restaurants auraient ensuite été ciblés. Les forces de l'ordre ont rapidement bouclé ces quartiers et plusieurs clients sont toujours confinés à l'intérieur de certains bars. Ce matin, Vienne est donc toujours en alerte maximale. Je vous le rappelle, il y a encore au moins un assaillant en fuite. Policiers et militaires continuent de sécuriser la ville. Des barrages sont mis en place dans la capitale et le contrôle aux frontières est renforcé. Les écoles seront ouvertes tout à l'heure, mais sans obligation pour les enfants d'y aller. Par mesure de précaution, les autorités appellent les habitants à rester chez eux à l'abri.
Et je rappelle donc ce bilan que vous nous donniez. 2 morts, 15 blessés. Jeanne Bergaoui, vos précisions en direct, hein, vous suivez cette situation pour nous.
Et on y reviendra hein, tout au long de la matinale. Il est actuellement 23h sur la côte est des États-Unis, 20h sur la côte ouest. Dans quelques heures, le pays aura choisi son président pour les 4 prochaines années.
Les sondages donnent 8 points d'avance au démocrate Joe Biden sur le républicain et sortant Donald Trump. On parle là des intentions de vote au niveau national. C'est le vote dans chaque État qui compte surtout. Et à l'image des débats très animés entre les deux candidats, la société est plus que jamais divisée jusque dans l'intimité des familles, comme on va le voir ici, dans un village de l'État de New York. Xavier Yvon.
Le chien de la famille se faufile entre les panneaux Biden et Trump plantés côte à côte dans le jardin des Kempis.
Trump,
c'est pour moi, dit le père, Lurch.
And my daughter's for Biden.
Biden, c'est ma fille. Si j'enlève les siens, elle enlèvera les miens, dit-il. Au téléphone, Sabrina confirme. Elle rentrera bientôt du travail et, comme tous les jours, tentera de trouver des terrains d'entente avec son père. Si Trump dit qu'il soutient les petits artisans comme mon père, je peux comprendre pourquoi il y croit, explique-t-elle. Et quand Biden dit qu'il veut agir contre le changement climatique, mon père peut comprendre, lui, pourquoi je soutiens ça. Papa Trump, fille Biden et entre les deux, maman indécise. Anna a voté Trump il y a 4 ans pour avoir du changement.
Boy, did we get dramatic change.
Ben mon vieux, on en a eu du changement radical, dit-elle en se demandant si cette fois elle ne va pas donner sa chance à Biden. Même si aucun des deux ne la motive vraiment, on a le droit de ne pas être d'accord, la liberté de choix, c'est ça l'Amérique. Tout le monde n'est pas aussi tolérant. Les Kempfield ont installé un grillage tout autour du jardin car les panneaux électoraux sont devenus des cibles de vandalisme un peu partout dans le pays. Narosberg, Xavier Yvon, Europe 1.
Et vous êtes au bon endroit sur Europe 1 pour suivre minute par minute cette présidentielle américaine. Dès ce soir à partir de 18h, édition spéciale. Toute la nuit prochaine, une nuit américaine et demain matin, matinale spéciale pour suivre ensemble les résultats dès 5h. D'ici là, un rendez-vous, 7h40 ce matin. C'est un ancien conseiller de Donald Trump, John Bolton, qui est l'invité du tête-à-tête Europe Matin avec Mathieu Béliard. Il publie un livre édition sur les coulisses de la Maison Blanche.
Autre feuilleton plus proche de nous et peut-être un peu moins décisif pour l'avenir du monde, les rayons de nos supermarchés. Oui, on peut dire que ça a bataillé sévèrement hier entre la grande distribution et le gouvernement. Bonjour Carole Ferry.
Bonjour.
Est-ce que l'on sait finalement quels rayons pourront rester ouverts ou non ?
Alors écoutez, une chose est sûre, les rayons vêtements, jouets et meubles seront fermés à partir de demain. Les rayons droguerie, parfumerie et hygiène, en revanche, resteront ouverts. Le maquillage sera donc finalement autorisé. La grande distribution s'est battue bec et ongle hier, avançant 2 arguments. 1. Les pharmacies ont le droit d'en vendre. Et 2. Il est difficile de faire le tri entre les produits essentiels et non essentiels d'un même rayon. Pour le moment, la vente des fleurs est aussi interdite, mais les fournisseurs sont montés au créneau hier, rappelant que ce sont des produits périssables et affirmant que 6 millions de tulipes et de roses seront jetées à la poubelle si le gouvernement maintient cette décision. La grande distribution attend également des précisions concernant la bijouterie, la vaisselle et le petit électroménager. C'est Matignon qui devrait prendre la décision finale. Un décret doit être publié dans la journée.
Carole Ferry du service économie d'Europe 1.
Encore 52 000 nouvelles contaminations au coronavirus hier en France et plus de 400 morts en 24 heures. On prend aussi conscience du fait que cette deuxième vague n'est probablement pas la dernière.
Oui, dans son dernier avis, le Conseil scientifique redoute plusieurs vagues successives entre la fin de l'hiver et le printemps prochain, Victor Delande.
Oui, selon le dernier avis du Conseil scientifique, on devrait sortir de cette deuxième vague à la fin de l'année ou début 2021. Emmanuel Macron a fixé un objectif, redescendre à 5000 nouvelles contaminations par jour au moment du déconfinement. On va donc ralentir la circulation du virus sans pour autant l'éteindre totalement.
On ne cesse d'être en retard derrière cette pandémie.
Gilles Pialoux est chef du service des maladies infectieuses à l'hôpital Tenon.
Ça fait partie des possibilités, compte tenu qu'il y a une immunité collective qui est probablement extrêmement insuffisante au niveau national, d'avoir comme ça des résurgences. Donc on va avoir un effet stop and go. Moi, mon opinion, c'est qu'il faut faire des sorties conditionnelles en fonction de la circulation du virus. En fonction des résultats obtenus par tranche d'âge, par région, par métropole et surtout pas ce déconfinement festif et insouciant qu'on a connu en mai. C'est le virus qui gagne là, dans cette histoire-là.
Confiner, attendre que les cas baissent puis déconfiner, voilà la stratégie du stop and go pour le moment privilégiée par la France. Une alternance de périodes de restrictions et de relâchements à laquelle vont devoir s'habituer les Français. Et dans cette stratégie, un seul élément peut mettre un terme à l'épidémie, c'est la découverte d'un vaccin.
Les précisions de Victor Delande pour Europe 1. Rentrée scolaire en décalé ce matin pour les élèves du collège du Bois d'Aulne à Conflans-Sainte-Honorine, l'établissement de Samuel Paty. C'était hier partout ailleurs et on vous faisait entendre la crainte de certains professeurs qui allaient devoir parler de cet assassinat à leurs élèves.
Notamment cet enseignant d'histoire géo à Tourcoing, Nicolas Schneck. Pour Europe 1, Lionel Gougeot l'a retrouvé hier après la classe.
Depuis quelques jours, Nicolas a appréhendé cette matinée d'hommages et d'échanges avec ses élèves de 3e et finalement, il a rapidement été rassuré.
Ils ont été réceptifs et ils ont reparlé d'émotions, d'hommages, de respect. C'était palpable, même s'ils sont adolescents et parfois ils n'osent pas exprimer leurs émotions, mais c'était quand même palpable. Clairement.
Un échange utile, dit-il, notamment pour rétablir la réalité des faits, loin des ragots des réseaux sociaux.
Ils ont eu beaucoup besoin aussi qu'on revienne sur les faits, sur ce qui s'est passé. Ils en ont entendu beaucoup durant ces 2 semaines de vacances à la maison. Et remettre à plat les choses, ça a été très utile. Et rappeler l'importance de la liberté d'expression, de la laïcité, qui est un des fondements du vivre ensemble.
Des principes qu'il va falloir maintenant réaffirmer sur le long terme, au-delà de cette seule journée d'hommage.
Par exemple, dans l'équipe d'histoire-géographie, on réfléchit à déjà comment ensemble aborder toutes ces notions-là. Et c'est vrai qu'on veut vraiment encore plus bétonner la transmission de nos savoirs et faire passer un message clair et compréhensible. Et pas laisser de doute dans leur esprit. Il ne faut rien lâcher. Et personnellement, je ne lâcherai rien.
Et pour cela, conclut le jeune professeur, il nous faut le soutien de tous, des familles, des politiques et bien sûr de notre hiérarchie. Tourcoing, Lionel Gougeot, Europe 1.
Et à 5h40, un autre prof d'histoire, Nicolas Anoto, lui enseigne à Béziers. Il sera mon invité à 5h40.
On va parler de votre santé. Et est-ce une coïncidence délicate à gérer ou une opportunité? Le mois sans tabac a commencé dimanche, 1er novembre, au 3e jour donc du reconfinement. Anne Le Gall, arrêtez de fumer maintenant, ça peut paraître mission impossible. Certains se lancent quand même.
Voilà, passer 30 jours sans allumer une cigarette, c'est le défi que se sont lancés près de 110 000 fumeurs français. Ils sont 2 fois moins nombreux que l'année dernière. Mais pour ces clients croisés au bureau de tabac, il faut dire que l'ambiance actuelle n'incite pas vraiment au sevrage.
Avec le coronavirus, je ne me vois pas trop rester chez moi, confiné, sans fumer ma petite cigarette pour, on va dire, décompresser.
Vous me trouvez aujourd'hui devant le tabac parce que, voilà, contrariété, énervé. Ras-le-bol du télétravail et du coup je ne prends même pas soin de ma santé.
Les chiffres montrent que lors du dernier confinement en mars, un quart des fumeurs avaient même augmenté leur consommation. Pourtant, explique le docteur Marion Adler, tabacologue, ce contexte de crise sanitaire et économique peut au contraire être un argument de motivation supplémentaire.
Il faut d'autant plus que je me protège la santé et pour ça l'arrêt du tabac, ça sera de toutes les façons bénéfique. Et puis j'aurai déjà tout l'argent que je mets dans les cigarettes en plus pour moi. Si j'arrête de fumer.
Ce qui fait 300 euros d'économie par mois pour celui qui fume un paquet par jour. Et comme les patchs ou les gommes à la nicotine sont entièrement remboursés, précise ce médecin, le bénéfice démarre dès la première cigarette qu'on n'allume plus.
Anne Le Gall pour Europe 1.
C'était le journal de François Geffrier sur Europe 1. Il est 5h11.
Retrouvez le journal des sports avec Winamax. Winamax, les meilleures cotes.
Bonjour Lénaïck Monnier.
Bonjour Sébastien, bonjour à tous.
À la une de votre journal des sports, on parle de ces violences physiques et sexuelles dans le monde du judo.
Enquête de nos confrères du Parisien où une femme dit avoir été violée des mois durant par celui qui était son prof de judo. À l'époque des faits, elle avait 13 ans et regrette aujourd'hui de ne pas avoir osé parler. Le milieu du sport qui n'est pas épargné par ce genre de drame, on l'a vu en handball, patinage, équitation. Et pour la sociologue Béatrice Barbus, on en est encore au tout début de la libération de la parole.
Il y a encore peut-être une sous-estimation du problème dans son ampleur, parce qu'on se rend compte que c'est pas juste l'histoire de Sarah Abitbol ou d'Isabelle de Mongeau, mais que voilà, derrière, il y a plein de cas, autres cas, qui ne sont peut-être pas aussi médiatisés, mais il y en a plein. Donc, une sous-estimation du problème dans son ampleur, quantitatif, et également une sous-estimation de ses conséquences humaines de ces violences sexuelles. Je crois qu'aujourd'hui, les dirigeants du monde sportif sont de plus en plus nombreux à se rendre compte que de tels crimes brisent des vies. La parole, on le voit, nous est en train de se libérer et elle est en train de se libérer partout. Continuons. Et ce n'est que le début, hélas, oui.
Et propos recueillis par Simon Rubin pour Europe 1.
L'OM n'a pas le droit à l'erreur ce soir en Ligue des Champions.
C'est la der pour les Marseillais qui ont perdu leurs deux premiers matchs dans la compétition contre l'Olympiakos et Manchester City. À Porto, ce soir, il faudra impérativement l'emporter pour espérer se qualifier. Un match qui sera assez particulier, en tout cas pour l'entraîneur de l'OM, André Villas-Boas. Porto, c'est sa ville. Il y est né, il y a grandi. Il y a aussi brillé en tant qu'entraîneur. On l'écoute.
Mon attachement à cette ville, c'est le même que tu as pour ta ville de naissance. C'est la ville où moi je suis installé avec ma famille. J'ai passé toute ma jeunesse ici, lié évidemment à cette club. C'est attachant. C'est comme pour nous, pour vous les Marseillais, retourner à Marseille, parce que Marseille à la fin a cette charisme que Porto a aussi. Ce sont les choses viscérales qui sortent d'un toi, que tu es émotionnellement attaché.
André Villas-Boas avec Jean-François Pérez. Porto OM, c'est à 21h. Demain, c'est au tour du PSG de jouer. Sans doute sans Kylian Mbappé. Il est resté aux soins hier après une alerte à la cuisse. Il pourrait donc manquer le match face à Leipzig. Coup dur pour Paris après la blessure déjà de Neymar. C'était samedi.
Le chiffre du jour, c'est 75.
75% des Français qualifiés hier pour le deuxième tour du Masters 1000 de Paris-Bercy. C'est passé pour Hugo Humbert, Corentin Moutet et Benjamin Bonzi. Hélas, Hugo Gaston, lui, n'a pas réitéré son exploit de Roland-Garros. Éliminé dès le premier tour, 6-3, 6-2, en une heure à peine. Faut dire qu'il jouait face au 15e mondial, l'Espagnol Carreno Busta.
On le reverra, on n'en doute pas.
Ah oui, on l'espère en tout cas.
Merci Lénaïck Monnier. Et c'est l'heure des courses à présent avec le pari gagnant de Thierry Léger. Bonjour Thierry.
Bonjour Sébastien. Il y aura des courses cet après-midi sur l'hippodrome de Saint-Cloud et mon pari gagnant sera le 709 Bouvardia. Cette pouliche tardive vient d'afficher de nets progrès lors de sa dernière sortie le 13 octobre à Chantilly, où elle est revenue de loin conclure à la deuxième place dans un style qui me permet de vous affirmer que cet adepte des pistes détrempées devrait pouvoir dès cet après-midi remporter sa première victoire. Notez bien, pour Saint-Cloud, réunion 1 dans la 7e course, le numéro 9, Bouvardia.
Merci Thierry Léger, on vous retrouve dans 20 minutes pour les pronostics du Quintet. À tout à l'heure. Europe 1. Il est 5h15 sur Europe 1 et on va ouvrir notre pressing américain ce matin. Les histoires que nous avons repérées dans la presse à propos de cette campagne américaine qui s'achève. Omblin avec un enjeu, par exemple, en Caroline du Nord.
Oui, focus sur le vote des femmes dans Le Parisien aujourd'hui en France. Des Américaines dans les banlieues des grandes métropoles qui, dans certains États, comme en Caroline du Nord, peuvent faire basculer le scrutin.
A tout de suite sur Europe 1. Bon réveil.
Europe 1. Sébastien Krebs.
5h16 sur Europe 1, la ville de Vienne, touchée par le terrorisme. 6 lieux visés par des attaques. Hier soir, dans la capitale autrichienne, les témoins évoquent des centaines de tirs en rafale. Le bilan est pour l'heure de 2 morts, 15 blessés, dont 7 dans un état grave. Les dernières heures de campagne aux États-Unis, il est temps pour Donald Trump de faire ses valises et de rentrer chez lui, a déclaré Joe Biden. Demain, nous allons gagner 4 ans de plus, lui répond le président sortant. Et puis au Mali, tout un bataillon de djihadistes liés à Al-Qaïda neutralisé. Plus de 50 combattants tués par l'armée française près de la frontière avec le Burkina Faso.
Europe 1.
Allez, c'est parti pour le pressing du jour avec Omblin Roche et Paul Lassen. D'abord un coup d'œil aux unes de vos journaux ce matin avec d'abord ce grand bazar, comme le titre Nice ce matin, le grand cafouillage dans les commerces pour l'indépendant. Mais où va-t-on faire nos courses ? Ça demande aujourd'hui en France après l'interdiction faite aux grandes surfaces de vendre les produits non essentiels. Alors qui vend quoi ? On n'y comprend plus grand-chose, hein, c'est vrai. Question à la une de la montagne. Casse-tête de gondole, c'est le titre du courrier Picard. Vos journaux sont aussi très largement consacrés à la présidentielle américaine. C'est le jour J, l'heure de vérité pour le Parisien, le moment de vérité pour la Croix. L'ultime bataille dans les échos, Trump ou Biden, point d'interrogation à la une de la Dépêche du Midi. Le monde retient son souffle pour Sud-Ouest, l'Amérique à l'heure du choix dans Ouest-France. Le Figaro décrypte le choc entre deux Amériques. Libération se demande si ce sera la fin du cauchemar, en parlant de Trump. Évidemment, et on va continuer ce pressing sur ce thème américain. Les trois histoires qui ont attiré notre attention dans cette campagne américaine. Et Omblin, on va commencer par donc cet électorat courtisé.
Oui, électorat féminin, direction dans aujourd'hui en France, la Caroline du Nord sur la côte atlantique, là où Donald Trump a battu Hillary Clinton en 2016 avec 3,5 points de plus. La Caroline du Nord fait partie des fameux swing states, hein, ces états qui peuvent basculer dans l'un ou l'autre camp. Et là où le vote des banlieues résidentielles peut faire pencher la balance des banlieues où vivent des femmes blanches, autrement dit des femmes au foyer, très courtisées par les républicains. Donald Trump va jusqu'à les appeler à l'aide. En Caroline du Nord, les sondages donnent aujourd'hui une très courte avance à Joe Biden, mais une électrice démocrate confie avoir du mal à le constater sur le terrain. Elle dit que les femmes blanches prennent davantage de prospectus chez les conservateurs. À celles qui votent Joe Biden, ulcérées par les propos misogynes du président actuel, les pro-Trump répondent « Oui, il est infect, il manque de respect aux femmes, mais il est plus capable que Biden. Elles sont nombreuses à oublier l'homme au profit des idées du clan républicain. Pour Lorraine, cadre, 28 ans, l'important ce sont les finances, la solidité du marché boursier. D'autres retiennent préférentiellement ses arguments de campagne sur la loi et l'ordre après les émeutes. Elles imaginent que la loi et l'ordre disparaîtront si Joe Biden est élu. Les électrices démocrates semblent s'être ruées sur les urnes dès l'ouverture du scrutin. C'est plus calme, dit l'une d'elles à l'approche du dépouillement. Voilà ce vote des femmes aux États-Unis dans aujourd'hui en France, le Parisien.
Oui, toujours un enjeu très important. Et d'ailleurs, notre envoyé spécial Théo Manval qui a fait le tour des États qui comptent ces derniers jours et même semaines. Théo Manval s'est arrêté la semaine dernière en Caroline du Nord. On l'entendait son reportage.
Oui, il est encore disponible sur Europe1.fr et il nous dit les études montrent que le soutien du parti du président est passé en Caroline du Nord dans ses rues pavillonnaires de 54% il y a 4 ans à moins de 40% aujourd'hui.
Autre état clé, le Michigan, et c'est le Figaro qui nous y emmène dans le nord des États-Unis. Là, on est dans la région des Grands Lacs et là-bas, c'est la menace de milices armées qui inquiète. 14 hommes ont été arrêtés, c'était le 8 octobre. Ils projetaient de kidnapper la gouverneure démocrate de l'État. Rien que ça. Pourquoi ? Eh bien pour protester contre les mesures sanitaires prises contre le Covid. Alors, ils n'étaient ni des foudres de guerre, ni des conspirateurs de génie, écrit l'envoyé spécial du Figaro à Détroit. Ils s'entraînaient régulièrement ensemble, ils consolidaient leur arsenal, ils partageaient leur haine sur les réseaux sociaux. Ce groupuscule s'est même donné un nom, les Wolverine Watchmen. Voilà, on est dans les films fantastiques.
Les super-héros.
On les voit dans des manifestations contre le port du masque. Récemment, en meeting dans la région, Donald Trump ne les a absolument pas condamnés. Hein. Il est plutôt d'ailleurs d'accord pour s'opposer à la politique sanitaire des démocrates. Et cela même si on parle bien de tentatives de kidnapping. Et déjà le 30 avril, des membres de ce mouvement avaient pris d'assaut le Parlement du Michigan. Fusil semi-automatique en bandoulière pour contester les mesures de confinement. Des pieds nickelés, rapidement arrêtés, voilà ce que raconte un peu le Figaro, mais les autorités craignent surtout que ces activistes extrémistes soient l'arbre qui cache la forêt, que les radicaux soient plus nombreux et soient prêts à en découdre en cas de défaite de Donald Trump. D'ailleurs, Trump ne manque jamais d'attiser leur colère, laissant entendre qu'il pourrait ne pas reconnaître les résultats et qu'il pourrait y avoir des fraudes. On verra demain. On en parle dès ce matin sur Europe 1. D'ailleurs, à Washington, certains commerces se barricadent par crainte de violence dans les jours qui viennent. Paul, un peu plus léger, on va terminer avec cette présidentielle qui se joue aussi dans le monde virtuel.
Oui, il reste que quelques heures aux indécis pour faire leur choix et dans cette dernière ligne droite, il faut redoubler d'inventivité pour les candidats pour aller chercher les derniers votes. Et c'est ce qu'essaye de faire Joe Biden et ses équipes qui tentent de convaincre les jeunes électeurs dans le Money Time. Après les lives Instagram avec des influenceurs américains, une incursion dans le jeu Animal Crossing, eh bien, le candidat démocrate investit depuis dimanche soir un autre jeu vidéo, le très célèbre Fortnite. Alors, pas question de bagarre ou quoi que ce soit, comme ça peut être le cas dans le jeu vidéo. Non, là, il s'agit d'un mode créatif qui va permettre aux joueurs de créer un monde accessible avec un simple code. Alors, dans ce monde accessible à tous, l'équipe de Biden a créé une île appelée Build Back Better with Biden, reconstruire mieux avec Biden, qui est un slogan de sa campagne. Alors, le joueur, qu'est-ce qu'il va voir sur cette île ? Eh bien, une aventure d'une vingtaine de minutes avec des mini-jeux parmi eux. Ajouter des panneaux solaires sur les maisons ou dans la rue, installer des antennes 5G pour améliorer la bande passante, ou encore construire un centre de recherche.
Ils ne construisent pas de murs, rassurez-vous.
Non, ben non, évidemment, le tout entouré d'affiches de campagne et de slogans pro-Biden, pas sur un grand mur entre les États-Unis et le Mexique. Alors par contre, on ne va pas se mentir, hein, il est peu probable que le candidat démocrate de 77 ans, on le rappelle, soit un adepte de Fortnite. Et cette campagne de dernière minute sur le jeu a quand même peu de chances de lui attirer beaucoup de votes d'ici là.
Ouais, je ne sais pas si Joe Biden sait jouer à Fortnite. Ouais,
c'est
moi,
peut-être une
non,
question.
Personnellement,
bon non plus.
Je ne jetterai pas la pierre. Paul, on verra avec vous tout à l'heure que cette campagne, elle se joue aussi massivement sur les réseaux sociaux. Bien sûr, on en parlera à 5h45. En attendant, demain, hein, nuit américaine sur Europe 1, ce sera avec vous, Ambline.
Oui. Avec plaisir à partir de 1h du matin, toute la nuit. Ça commence d'ailleurs dès ce soir hein, avec Julien Bugey.
À 18h.
Dès 18h et nous sommes là toute la nuit avec notamment cette nuit la diffusion de podcast Mr. President de Olivier Duhamel, entre autres.
Voilà, et dès 5h, matinale spéciale en direct pour découvrir ensemble les résultats avec tous nos envoyés spéciaux sur place et de très nombreux invités. Voilà, rideau sur le pressing du jour.
Merci.
Il est 5h23.
Sébastien Krebs vous informe sur Europe 1.
Et nous allons dans l'Oise pour les doigts dans l'assiette. Bonjour Luc Messert.
Bonjour Sébastien.
Vous allez bien, vous êtes notre polyculteur, éleveur. Comment ça se passe pour vous ce nouveau confinement ?
Ah ben, on est au travail. Le président l'a dit, les exploitations agricoles vont continuer à tourner pour vous garantir à tous, à nous tous, le bon lait, tout l'ensemble de nos produits qu'on est capable de fournir dans nos fermes. Ce confinement, on a repris l'attestation permanente parce que forcément, il faut être 24/24 sur nos fermes. Et puis, on pense aussi à toutes ces filières qui sont un peu en souffrance dans cette période. C'est toutes ces filières qui font plutôt du canard, les foie gras qu'on va bientôt consommer à Noël, mais tous ces boissons, le vin, le cidre, la bière. Et je peux lancer qu'un seul appel, c'est consommer vraiment local, acheter directement puisque toutes les fermes aujourd'hui ont la possibilité de vendre pour ceux qui ont un commerce.
La vente directe qui reprend à la faveur de ce nouveau confinement. On sait que ça avait bien marché pendant le premier confinement.
Ça a été une bonne chose et puis ça permet en même temps à tous les Français de mieux connaître, de pouvoir discuter avec le producteur. Et puis quand on peut ouvrir une bonne bouteille puis de dire tiens je l'ai acheté à tel endroit ou il l'a produit de telle façon, je pense que c'est aussi une façon, c'est un acte civisme dans cette période où on pourrait tous dire on va aller à la grande surface. Non, là je pense que on peut et puis on essaye aussi d'être présent dans la grande surface, dans la grande distribution. Et on pense aussi à tout ce qui va arriver bientôt. Là, on a aussi des producteurs de sapins dans notre département. Et en France, si on peut acheter notre sapin à la ferme, c'est pas mal non plus.
Ouais, et pour l'instant, les fleuristes vont se refermer. Donc, on va voir comment ça se passe pour les sapins. On espère que tout se libérera au mois de décembre pour que Noël soit le plus normal possible. Ceux qui s'ouvrent, vous disiez, c'est les producteurs de produits de fête, justement, et ceux qui fournissent les restaurants, j'imagine, doivent prendre un sacré coup.
C'est exactement ça. C'est tout ce qui est festif, qu'on consomme généralement plutôt en restauration foyer, c'est-à-dire dans les restaurants. Et donc là, c'est sûr qu'il faut absolument s'adapter. On voit des filières qui souffrent. Et il y a des filières qui souffrent sur plus long terme. Je le disais il y a quelques semaines hein, sur vos ondes. Nous, on fait du lin, par exemple. Le lin, c'est des fibres plutôt... c'est la mode de luxe. Et là aussi, aujourd'hui, c'est des filières qui souffrent puisque aujourd'hui, on vend un peu moins dans ces boutiques. Mmh. C'est tout un ensemble, hein, le monde agricole. C'est l'agriculture, c'est l'agroalimentaire, mais qui est aujourd'hui au travail pour être sûr que dans nos magasins, on manque de rien sur ce mois de novembre.
Et on sait combien vous avez travaillé déjà pendant le premier confinement pour nourrir les Français. Merci beaucoup Luc Messert, beaucoup de courage à vous pour passer cette période et à très bientôt dans les doigts de la
suite. À très bientôt.
Laurent Cabrol, la pluie gagne peu à peu toute la France.
Oui, elle gagne les régions du sud, hein, surtout les régions du sud et de l'est, alors que le temps sera légèrement plus éclairci sur les côtes de la Manche, non pas les côtes en elles-mêmes, car elles seront sous les orages, mais la période intermédiaire, la zone intermédiaire. Alors, vous dire que les pluies seront là, peu ou prou, Piémont-Pyrénéen, Alsace, Franche-Comté, Rhône-Alpes, Berry, Morvan, Limousin, Dijonais, Vosges, Lorraine, Ascq, Aquitaine et Béarn, vous voyez que toutes ces régions seront marquées par des pluies, soit le matin, soit l'après-midi. Du Poitou-Charentes à la région parisienne, à la Champagne-Ardenne, quelques éclaircies. Et puis sur le littoral méditerranéen, un ciel gris. Je voudrais terminer quand même avec des températures. Les températures vont baisser de manière spectaculaire. 5 à Alençon en ce moment, 8 à Paris seulement, 11 à Nancy, 12 à Bordeaux. Et dans la journée, entre 12 et 15 degrés au nord et entre 16 et 20 degrés au sud. Vous voyez que ça baisse bien. Et cette baisse va s'accentuer dans les jours qui viennent. Mais la pluie, elle, va cesser dès demain.
Merci Laurent Cabrol, à tout à l'heure.
Europe Matin, le 5-7. Sébastien Krebs.
Merci d'être fidèle à Europe 1. Au réveil, tout de suite un nouveau journal avec vous Hélène Zélani. Bonjour Hélène.
Bonjour Sébastien, bonjour à tous.
Il est 5h30.
Trump est un don de Dieu. Il va gagner par un raz-de-marée. Je suis tellement excitée, tellement fière de lui.
Les fans de Donald Trump veulent coûte que coûte croire à sa victoire, même si tous les sondages donnent Joe Biden vainqueur. Des dizaines de millions d'Américains votent aujourd'hui pour une élection historique. Vienne en Autriche sous le choc d'une attaque terroriste. Bilan toujours provisoire. 2 morts, 15 blessés, dont 7 graves et aucune revendication. Rentrée des classes ce matin dans le collège de Conflans-Sainte-Honorine où Samuel Paty enseignait, les enfants restent très marqués par le drame. Et puis, du football avec l'OM qui joue ce soir en Ligue des Champions sur le terrain de Porto.
Parler laïcité et liberté d'expression à 12 millions d'élèves, la mission n'a pas été toujours facile hein, hier pour les enseignants. Pour cet hommage à Samuel Paty, un témoignage juste après ce journal, celui d'un prof d'histoire, Nicolas Anoto. Il a soulevé ses questions avec ses collégiens. Il nous raconte dans 10 minutes. Et puis ce sera La France bouge sur Europe 1. Bienvenue, il est 5h31.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Bidon, c'est le mot employé par Donald Trump pour balayer d'un revers de main les sondages qui lui sont défavorables. 59e élection présidentielle aux États-Unis aujourd'hui.
Et si près de 100 millions d'Américains se sont déjà prononcés par anticipation, les autres sont attendus dans les bureaux de vote. Théo Manval, vous êtes l'envoyé spécial d'Europe 1. Les pro-Trump, qui lui vouent un véritable culte, refusent tout simplement d'imaginer la moindre défaite.
Oui, ce sont même des fidèles à la dévotion quasi religieuse et pour qui ça ne fait aucun doute. Ce président est un don de Dieu, il va gagner par un raz-de-marée. Tous ou presque attendent aujourd'hui pour aller voter, convaincus d'un risque de fraude lié au vote anticipé. Il est phénoménal, il parle comme nous et fait ce qu'il dit, pas d'enfumage. Résume ses militants, drapés d'accessoires Trump de la tête aux pieds. Il a relevé l'économie, empêche les immigrés, violeurs et trafiquants de drogue d'entrer sur notre territoire. Ce n'est pas 4 ans de plus qu'il nous le faut, plutôt 12. Le virus, en 2 jours, s'était plié pour lui, signe que ça n'est pas si grave. Personne n'aurait mieux géré la pandémie, il faut arrêter de tout lui reprocher. Pour eux, Donald Trump est persécuté par des médias biaisés, c'est sûr à 150 000%, s'emporte cette jeune femme. Certaine que les sondages se trompent, d'ailleurs c'est très simple. Joe Biden a 3 millions d'abonnés sur Facebook, Donald Trump, lui, 10 fois plus. Et ça, tout le monde, dit-elle, peut aller le vérifier.
Théo Manval, vous êtes l'envoyé spécial d'Europe 1 aux États-Unis.
Et un rendez-vous ce matin sur Europe 1, 7h40, dans le tête-à-tête Europe Matin. Mathieu Béliard reçoit John Bolton, l'ancien conseiller de Donald Trump à la sécurité intérieure. Il raconte les coulisses de la Maison-Blanche.
Le terrorisme frappe l'Autriche de plein fouet. Plusieurs fusillades ont éclaté hier soir en plein centre de Vienne, d'abord près d'une synagogue.
6 lieux différents ont été visés et le bilan provisoire est d'au moins 2 morts et 15 blessés, dont 7 dans un état grave. Pas de revendication à ce stade. Écoutez les précisions du ministre autrichien de l'Intérieur, Karl Nehammer.
C'est la journée la plus difficile pour l'Autriche depuis de nombreuses années. Malheureusement, il y a eu plusieurs blessés, plusieurs morts. Un terroriste lourdement armé, équipé d'un fusil d'assaut automatique, a été éliminé. Au moins un autre est en fuite. Alors s'il vous plaît, restez à la maison. Évitez le centre-ville. Demain, il n'y aura pas de scolarité obligatoire à Vienne. Donc si les parents le peuvent, les enfants peuvent rester à la maison. Nous pouvons affronter ensemble cette situation difficile si nous nous comportons de manière disciplinée. Nos pensées vont aux familles des victimes. Une chose doit être claire, quiconque attaque l'un de nous, nous attaque tous.
Le ministre autrichien de l'Intérieur traduit par Jeanne Berger-Houy et réaction d'Emmanuel Macron cette nuit sur Twitter. Nos ennemis doivent savoir à qui ils ont affaire, nous ne céderons rien.
Il est 5h34 sur Europe 1. 12 millions d'élèves étaient de retour en classe hier, sauf ceux du collège de Conflans-Sainte-Honorine où enseignait Samuel Paty. Ce sera leur tour ce matin, mais dans une ambiance qui s'annonce très lourde.
Oui, Nicolas Feldman a rencontré cette mère de 3 enfants. L'aîné, aujourd'hui en 3e, a eu Samuel Paty comme prof d'histoire-géo pendant 3 ans. Une adolescente toujours très marquée.
Elle a du mal à exprimer ses émotions. Elle a peur, elle n'est pas rassurée. Et quand elle en parle, en fait, elle fond en larmes. En tant que maman, c'est compliqué à gérer, hein. Trouver les bons mots pour la rassurer. Après, c'est sûr que les rassemblements, la marche blanche, l'hommage à Samuel Paty qu'on a vu, l'hommage national, ça l'a apaisé. Mon fils, il a 8 ans. Je suis tombée sur un dessin qu'il a fait. Donc il a dessiné un monsieur debout avec un couteau dans chaque main. Et à côté, donc, il y avait un corps et avec la tête dessinée à côté du corps, avec du rouge partout. Ah non, mais là, j'étais en état de choc. D'ailleurs, le dessin, je l'ai rangé. Et je peux même dire je l'ai caché. En fait, j'arrive pas à remettre la main dessus. J'ai fait, oh là là, au secours, qu'est-ce que c'est que ça?
Qu'est-ce qu'on répond quand on voit ce genre de choses?
On essaie de les rassurer le plus possible, parce que la vie, c'est pas que ça, quoi.
Témoignage recueilli par Nicolas Feldman. 4 élèves mis en cause dans l'enquête ont quitté l'établissement où une cellule psychologique sera ouverte aujourd'hui. Sur le front du Covid, les derniers chiffres sont très inquiétants. 3721 patients en réanimation et en soins intensifs et des décès en forte progression ces dernières 24 heures. 418, c'est un record depuis le 20 avril dernier.
Après la fronde des petits commerçants, la grande distribution va devoir fermer certains rayons à partir de demain. Les vêtements, les jouets ou encore l'habillement.
En revanche, les rayons droguerie, parfumerie et hygiène resteront ouverts. Reste un doute sur la bijouterie, la vaisselle ou le petit électroménager. Le décret sera publié dans la journée.
L'actualité du foot à présent, la 3e journée de Ligue des Champions s'ouvre ce soir avec le FC Porto qui reçoit l'Olympique de Marseille.
Et des Marseillais en situation très délicate, battus 2 fois en 2 matchs, ils n'ont donc plus le droit à l'erreur. À Porto, Jean-François Pérez.
C'est un chiffre qui donne le vertige. Ils sont même montés jusqu'au dernier étage du célèbre pont Don Luis qui enjambe le fleuve Douro à plus de 60 mètres d'altitude. En Ligue des Champions, l'OM reste sur 11 défaites consécutives. Une 12e et il égalerait le bonnet d'âne européen absolu, propriété depuis 15 ans des Belges d'Anderlecht. Le meneur de jeu marseillais, Dimitri Payet, tente de dédramatiser.
C'est quelque chose qu'on a vu, oui, certes. Après, très peu de joueurs dans cet effectif ont joué cette compétition. C'est un début pour beaucoup de joueurs. Donc malheureusement, voilà, c'est aussi un fait. Il faut que l'on apprenne, il faut qu'on en apprenne vite, mais c'est quelque chose qu'on ne peut pas nier.
D'autant moins que l'OM déçoit depuis son retour dans la compétition. Aucun but marqué, jeu stérile et restrictif, critique de plus en plus virulente des supporters. Pour son grand retour au pays, le populaire André Villas-Boas aurait rêvé d'un autre contexte. L'entraîneur marseillais est né à Porto, il a grandi, il a conduit l'adversaire du soir à un quadruplé national et européen, encore dans toutes les mémoires ici. Il veut même en devenir un jour le président. En attendant, il devra éviter à son club actuel un naufrage qui ferait tâche au pays des conquistadors. Porto, Jean-François Pérez, Europe 1.
FC Porto M, coup d'envoi de la rencontre à 21h.
Le journal signé Hélène Zellani, il est 5h37 sur Europe 1. Et place aux courses, Thierry Léger, quels sont vos pronostics pour le quintet du jour?
Direction Saint-Cloud pour ce quintet, un marathon sur 3000 mètres qui réunira 14 partants avec un favori solide, le numéro 2, Moonwalk Step, souvent vu à son avantage à ce niveau et qui va évoluer dans un terrain lourd sur lequel il vaut quelques longueurs de mieux. Dès lors, ce spécialiste des pistes profondes me semble difficile à battre. Il devra toutefois se méfier des numéros 1, Attention Adventure, lauréat de cette course l'an dernier, 4 Sagarois, qui lui sera très avantagé par l'état du terrain, et 14 Mortré, toujours très performante, sur cet hippodrome de Saint-Cloud où elle n'a quasiment jamais déçu. Enfin les numéros 7 Gourel, 6 L'Improviste, 10 Letty Storm et 5 Glory Days ont eux aussi quelques arguments solides pour faire l'arrivée de ce quintet. Mon pronostic, 2 As, 4, 14, 7, 6, 10 et 5.
Merci Thierry Léger, on retrouve tous vos pronostics sur europe1.fr. Il est 5h39.
Sébastien Krebs sur Europe 1.
Le premier invité de la matinale ce matin est un professeur d'histoire géo et d'éducation civique dans un collège. Bonjour Nicolas Anoto.
Bonjour.
Bienvenue sur Europe 1. Vous enseignez à Béziers face à des classes de 5e, de 4e. Vous étiez déjà avec nous il y a une dizaine de jours après l'assassinat de Samuel Paty et vous partagiez déjà vos réflexions sur la façon dont vous souhaitiez aborder ce sujet, le terrorisme, la laïcité, la liberté d'expression aussi avec vos élèves. Comment s'est passée cette rentrée particulière hier matin ?
Alors une rentrée très particulière effectivement parce que je n'avais pas vu mes élèves depuis 3 semaines, mais entre-temps il y a eu le reconfinement, il y a eu l'attentat contre Samuel Paty, d'autres attentats et j'avais un peu d'appréhension à l'idée de retrouver mes élèves. Ça s'est bien passé, mais ça a été compliqué.
Oui, vous dites que c'était compliqué. Pourquoi c'était compliqué ?
Parce que on avait des élèves qui étaient assez stressés, un peu agités, parce que les vacances n'avaient pas été sereines. Et à la fois, il fallait arriver à les rassurer sur l'évolution de l'épidémie, et à la fois, il y avait l'hommage et le fait d'arriver à avoir un temps un peu grave pour parler de sujets importants, avec de l'émotion, mais en même temps un peu difficile à comprendre parfois pour des adolescents.
Il y avait une inquiétude aussi chez ces adolescents ?
Oui, mes élèves étaient assez inquiets pour cette rentrée, et ça a d'autant plus été difficile pour arriver à les faire parler, pour arriver à lancer le sujet, pour faire le point un peu sur ce qu'ils savaient et sur les questions qui se posaient.
Quels mots ont-ils utilisés ? Quelles questions ont-ils posées ?
Alors les questions de mes élèves à cette rentrée n'étaient pas forcément toutes sur Samuel Paty. Beaucoup de questions sur le confinement, beaucoup de questions sur l'actualité, sur la forêt amazonienne même. Après, on en est venu quand même assez rapidement à cet hommage. Et ils se posaient surtout des questions sur pourquoi un hommage pour telle ou telle victime et pas pour d'autres. Et on a beaucoup parlé de la question de la symbolique de l'enseignement, de l'éducation, des cours d'histoire géo, de la liberté d'expression.
Qu'est-ce qu'ils en disaient ? Est-ce qu'il y avait débat entre ces élèves aussi sur ces sujets-là ? Est-ce que certains désapprouvaient cet hommage ?
Les élèves, dans l'ensemble, ne désapprouvaient pas l'hommage, mais parfois ils avaient du mal à comprendre toute la symbolique qu'on donnait à cette question-là. Ils avaient du mal un peu à savoir en quoi est-ce qu'un hommage à la Sorbonne, c'était exceptionnel. Et donc le boulot du prof d'histoire géo, là, c'est justement de recontextualiser, d'expliquer comment est-ce qu'on met en place des hommages, le contexte en bref.
Au final, cette matinée, elle a été utile, selon vous, avec cette lecture donc, de la lettre de Jean Jaurès, avec cette minute de silence, avec les quelques minutes de débat que vous avez pu avoir. Est-ce que c'est suffisant ?
Cette matinée aurait pu être très utile si on avait eu l'occasion entre enseignants de préparer un travail cohérent avec les enseignants de toutes les disciplines, en se mettant d'accord, même en se soutenant. Là, la manière dont le ministère l'a organisé nous a mis en difficulté, puisqu'on ne fait pas une minute de silence sans expliquer. Heureusement, dans mon établissement, on s'est réunis pendant une heure pour en parler. Oui. Certains collègues avaient besoin qu'on les aide à le préparer.
Vous dites que le ministère vous a mis en difficulté parce que cette rentrée n'a pas été décalée à 10h comme prévu. C'est ça qui aurait permis que vous échangiez un peu plus entre professeurs ?
Oui, on aurait dû se voir normalement le matin. Mais le vendredi soir, on a reçu un mail du ministère qui nous indiquait que tout était remis en cause, ce qui a fait travailler les chefs d'établissement pendant tout le week-end. Il y avait quand même un grand ras-le-bol en salle des profs sur la manière dont les nouvelles passent, la manière dont on les traite en général.
Au final, est-ce que ça aura suffi ?
Au final, non, ça ne suffit pas. C'était un hommage, c'était important pour l'école, pour les enseignants. Pour les élèves, c'est un travail de long terme qu'il faut pour tenter de donner un peu de concret à ces valeurs de la République dont on parle en grands mots. Mais à l'échelle d'une classe qu'on doit faire vivre, à l'échelle d'une vie scolaire, d'une cour de récréation. Et c'est ça en tout cas qu'on aimerait bien faire avec les collègues d'ici la fin de l'année.
La minute de silence, elle a été bien respectée ?
La minute de silence s'est bien passée avec mes élèves, mais elle s'est bien passée parce qu'on était en classe, parce que je l'ai préparé, je leur ai expliqué pourquoi est-ce qu'on le faisait, comment est-ce qu'on le faisait, à quelle occasion. Heureusement que ça ne s'est pas fait comme ça avait été discuté au début, dans la cour de récréation, avec 500 adolescents ensemble. Là, heureusement, on a fait confiance aux professeurs et nous, on sait faire pour mettre les élèves en confiance.
Vous auriez eu tous les élèves dans la cour, vous pensez que ça aurait été plus agité ?
Oui, les élèves sont des adolescents et on ne peut pas leur imposer des rites prévus pour des adultes. C'était pareil pour la lettre de Jean Jaurès qui est très belle, mais pour nous, et qui est un peu hors sol pour des adolescents qui ne comprennent pas les mots, qui ne comprennent pas la période parce qu'ils ne l'ont pas encore étudié en cours, ça a pris un peu de temps.
Vous nous dites que vous allez continuer à évoquer ces sujets. D'ailleurs, la dernière fois, vous nous expliquiez, vous étiez en train de préparer justement une session sur la liberté d'expression avec vos élèves et que même vous envisagez d'utiliser comme support certaines caricatures de Charlie Hebdo. Vous allez continuer à utiliser ces dessins ?
Alors, en effet, j'ai bien prévu de continuer en cours d'éducation civique pour suivre l'hommage. Et je vais passer du temps sur la caricature parce que j'en ai utilisé une pour introduire le débat. J'ai bien vu que la question de l'humour n'était pas compris, la question du rôle du journaliste n'était pas bien compris. La question de qu'est-ce que c'est que de la diffamation, qu'est-ce que c'est que de se moquer d'une religion, ou comment est-ce qu'on parle d'une religion, tout ça, ça mérite beaucoup de temps et ça ne peut pas se faire en une demi-heure.
Vous sentez beaucoup d'incompréhension sur ces sujets-là ?
En bref, il y a un problème aussi de mise en pratique pour trouver des exemples et pour pas forcément revenir sur ce qui est connu. C'est pour ça que c'est important de mettre en perspective que Charlie Hebdo se moque de tout et pas seulement d'une religion, de mettre en perspective qu'il y a plusieurs caricaturistes et que à chaque fois, eh bien, ça plaît ou ça plaît pas, que c'est une création aussi artistique à remettre dans son contexte.
Merci beaucoup, merci Nicolas Anoto d'avoir partagé avec nous ce matin cette expérience de cette rentrée et de l'évocation de ces sujets compliqués à évoquer avec des adolescents au collège. Je rappelle que vous enseignez l'histoire géo à Béziers, vous êtes aussi délégué national de l'UNSA. Merci, bonne journée.
Merci.
Europe 1.
Il est 6h moins le quart sur Europe 1, c'est l'heure de mettre en lumière ceux qui ont des idées, ceux qui font bouger la France avec vous, Lénaïque Monnier. Où est-ce qu'on va ce matin ?
On va à l'île des inventeurs, ils sont deux, ont créé une table à colorier à l'infini, idée à retenir si jamais on reconfine les plus petits.
Eh bah oui, allez, on va garder l'idée, bah oui, il y a quand même le mercredi. Les Français ont des idées, Lénaïque Monnier vous le prouve dans un instant, à tout de suite sur Europe 1.
Europe 1, Sébastien Krebs.
Il est 5h46 sur Europe 1. Le bilan est toujours provisoire après les fusillades qui ont éclaté hier soir près d'une synagogue à Vienne en Autriche. 2 morts, 15 blessés dont 2 graves. L'un des assaillants a été tué, un autre est toujours recherché. On y revient dès le début du journal de 6h avec les toutes dernières informations. Le jour J pour la présidentielle aux États-Unis, les dernières heures de campagne. La chanteuse Lady Gaga était sur la scène d'un meeting de Joe Biden cette nuit. Joe Biden qui appelle à reprendre le contrôle de la démocratie. Et puis 2 opérations antiterroristes menées par l'armée française au Mali. Le chef d'état-major des armées l'a annoncé hier soir sur Europe 1. Les forces spéciales ont tué une 60aine de djihadistes.
Écoutez le monde changer avec Sébastien Krebs sur Europe 1.
Et c'est l'heure de la France bouge. Les Français ont des idées qui changent le quotidien. Lénaïque Monnier, on revient donc ce matin sur... Ah ben on fait du dessin ce matin.
Oui, avec de drôles de bouilles. C'est le nom d'une start-up lilloise qui a vu le jour au mois d'avril, autrement dit en plein confinement. Martin et Thibault se rencontrent en 2018. Le premier a déjà un site consacré à la vente en ligne pour enfants. Le deuxième est créateur de meubles. Un confinement plus tard, les voilà associés. Et c'est comme ça qu'ils inventent la coloritable.
La coloritable, alors quel est le concept ?
Alors c'est le même principe qu'une ardoise, mais là ça ressemble à un petit bureau en bois de hêtre avec un plateau de 40 sur 40 cm. L'enfant s'y installe, il colorie, peut tout effacer, il suffit d'un petit peu d'eau claire, pas de détergent, et puis il recommence. On peut surtout mettre plusieurs enfants autour de la table toute la journée. Ça fait non seulement des économies de papier, et ça les tient aussi à distance des écrans.
Alors qu'est-ce qu'on colorie ?
Alors de drôles de bouilles justement, qui ce sont 3 personnages, 3 copains, Nico l'écolo, Brie l'ami des animaux, et enfin Jamie le scientifique, un peu un télo, des personnages qui ont été créés avec l'aide de psychologues et d'enseignants pour que le message soit un peu pédagogique. Voici les thèmes, potager enchanté ou encore la ferme en folie. Les parents peuvent aussi imaginer des exercices autour de la table comme identifier les fruits ou bien apprendre à compter également.
Alors où est-ce qu'on la trouve cette coloritable ?
Alors chez des particuliers mais aussi dans des magasins ou des salles d'attente de pharmacie aussi par exemple. Les 2 inventeurs espèrent maintenant convaincre les écoles maternelles ou primaires d'investir. Ça coûte 90 euros, toutes les 50 tables achetées. Nos entrepreneurs en offrent une à un service hospitalier pour enfants des Hauts-de-France. 500 tables à ce jour ont été vendues.
Une belle initiative et puis c'est vrai que ça occupe, ça évite le papier. Nous on avait l'ardoise magique, vous n'avez pas eu l'ardoise magique ?
Si, si, si.
Bon voilà, on ne pouvait pas colorier mais bon. Merci Lénaïque Monnier, à demain.
À demain.
Les réseaux sociaux avec vous Paul Lassen et on va retourner aux États-Unis où cette campagne qui s'achève s'est évidemment beaucoup jouée sur les réseaux sociaux.
Oui, c'est une mode qui a vu le jour il y a plusieurs mois sur Instagram là-bas aux États-Unis, des profils créés pour diffuser des mèmes caricaturaux des candidats à la présidence. Alors un mème, qu'est-ce que c'est ? C'est une photo, une vidéo devenue virale et repris et décliné un peu ironiquement sur Internet pour se moquer des candidats. Une mode qui s'est servie de la politique et qui est devenue un véritable business pour plusieurs internautes. Il faut savoir qu'il existe des centaines de comptes avec placement de produits dont le nombre d'abonnés peut varier de quelques millions à plus d'un million avec en jeu des milliers et des milliers de dollars. Alors, ces comptes rapportent de l'argent, mais ils ont surtout des visées politiques. Le contenu des publications va de la satire politique d'un côté jusqu'au sectarisme de l'autre. Alors bien sûr, comme dans la campagne américaine avec les tweets de Donald Trump, il y a de la propagation de fake news ou de théories du complot. Par exemple, ils n'ont eu de cesse de minimiser la pandémie de coronavirus et de dénoncer le port du masque. Très intelligent, vous le noterez. Beaucoup de ces comptes, il faut savoir, sont créés par de jeunes partisans de Trump. Parfois même, son entourage crée ces comptes. Et évidemment, cette démarche profite de la caisse de résonance que sont les réseaux sociaux, Twitter pour Donald Trump et Instagram un peu plus largement. Et cette campagne, elle est remarquablement efficace puisque pendant les deux derniers mois de campagne, ces comptes ont gagné des milliers d'abonnés. Ça ne se chiffre pas encore exactement. Une petite entreprise lucrative donc pour les Instagrammeurs qui créent ces comptes. Mais surtout, ça sert de propagande gratuite. Alors, on va pas le dire pour Biden parce qu'il s'en sert peu, mais surtout pour Donald Trump. Et surtout, ça permet de se rendre compte du rôle essentiel des réseaux sociaux dans cette campagne américaine.
Et dans cette campagne américaine qui a été la plus chère hein, jamais connue aux États-Unis, le coût de la campagne énorme cette année est historique. Je ne retrouve plus le chiffre, mais je le cherchais. C'est énorme par rapport aux années précédentes et c'est notamment lié à ces dépenses sur la télévision et sur les réseaux sociaux. Merci Paul Lassalle, les réseaux sociaux avec vous tous les matins. Ondelatte raconte tous les jours à 14h, Christophe Ondelatte qui s'est lui aussi mis à l'heure américaine et qui vous raconte les grandes histoires qui ont marqué l'Amérique. Celle du jour, c'est celle du Watergate en juin 72. Des cambrioleurs sont arrêtés au siège du Parti démocrate à Washington. Parmi eux, certains ont appartenu à la CIA et gravitent dans l'entourage direct du président Nixon. Le récit Christophe Ondelatte, Ondelatte raconte, à télécharger dès maintenant sur Europe1.fr. Et le 5-7 continue en musique américaine, en cette journée d'élection avec Bob Dylan.
Oui, on va passer du côté folk de la force.
La partition d'Omblin Roche à suivre, 5h52. Europe 1. 5h54, nous ouvrons la partition d'Omblin Roche, la partition à l'heure américaine en ce jour de présidentiel. Avec une figure de la musique outre-Atlantique, l'insaisissable et adulé Bob Dylan. L'occasion, Blin, de retourner au commencement.
Oui, il a 21 ans au début des années 60. Les filles trouvent son charme mystérieux. Les garçons remarquent plutôt sa guitare, pas toujours bien accordée, sa voix pas forcément en rythme et son timbre un peu nasillard. The guilty undertaker sighs, the lonesome organ grinder cries,
the silver saxophones say I should refuse you. Alors avant de devenir le symbole de la musique folk engagée, Bob Dylan commence à se faire connaître dans des cafés d'étudiants de Greenwich Village.
Des cafés plus ou moins branchés, plus ou moins politisés. Bob Dylan se présente comme un disciple du chanteur folk d'avant-guerre Woody Guthrie. Il a d'ailleurs délaissé ses études d'art à Minneapolis, s'est installé à New York pour rencontrer son idole. Woody Guthrie, engagé dans les luttes sociales, est une figure de Greenwich Village, le QG du milieu folk contestataire new-yorkais. Hey. The tambourine man play a song for me. I'm not sleepy and there is no place I'm going to.
En pleine révolution civique, pacifiste et estudiantine, en toute logique, Bob Dylan s'engage à son tour.
Ah oui, en 1963, dans un café de New York, en 10 minutes, il écrit la chanson qui va devenir instantanément l'hymne des mouvements contestataires des années 60. Blowing in the Wind est repris en chœur par les étudiants, les chanteurs de folk, les défenseurs de la paix, alors que les États-Unis s'enlisent au Vietnam, et les défenseurs de l'égalité entre noirs et blancs. D'ailleurs, devant le Lincoln Memorial en 1963, en août, le trio folk, Peter, Paul and Mary chant Blow in the Wind juste avant le discours I Have a Dream de Martin Luther King. How many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.
Alors ce sont toujours ces expériences personnelles, son vécu qui nourrissent son inspiration.
Et petit à petit, Bob Dylan ressent le besoin de s'éloigner du milieu et de la musique folk. Il décide de rompre avec des chansons contestataires, sans doute pour ne pas être affublé toute sa vie de l'étiquette légende de la protest song. Il ressent aussi une certaine lassitude envers le monde de la musique et la célébrité.
Un rien provocateur, et il met donc en scène cette rupture en 1965.
Lors du festival de Newport, sur la côte est des États-Unis, la guitare électrique se fait huer par le public. La chanson Like a Rolling Stone symbolise ce tournant et cette trahison ressentie par une partie du milieu folk. Once upon a time, it dressed so fine.
the bump of dime in your prime. Then you people call, say beware doll, you're bound to fall. You thought they were all kidding you. You used to laugh about everybody that was hanging out. Now you don't talk so loud. Now you don't seem so proud about having to be scrounging your next meal. How does it feel? How does it feel to be without a home? Like a complete unknown, like a rock. But you know you only used to get juiced in it.
1965, Like a Rolling Stone, oui, avec Bob Dylan.
Qui symbolise Like a Rolling Stone, le début de la seconde partie de sa carrière, après avoir incarné, au début des années 60, l'icône de la chanson folk protestataire.
Bob Dylan, prix Nobel de littérature, bien plus tard, en 2016, pour avoir créé de nouvelles expressions poétiques dans la tradition de la chanson populaire américaine. Voilà, on est aux États-Unis aujourd'hui avec cette présidentielle américaine. Merci. Omeline Roche.
Merci
pour la partition. Laurent Cabrol, c'est plus vieux. Hein.
Eh oui, c'est plus vieux. Il y a du vent, blow in the wind. Vous allez souffler dans le vent si vous êtes le long des côtes de la Manche, parce qu'il va souffler jusqu'à 60 km/h ce vent, avec même des orages. Et puis partout ailleurs, ce sont des pluies. Alors, ce ne sont pas des pluies permanentes. Les pluies les plus présentes se situeront cet après-midi sur les régions de l'Est, hein, sur l'Alsace, la Franche-Comté et la région Rhône-Alpes, avec même des chutes de neige à basse altitude dans les Alpes, 1000 mètres, 1200 mètres. Rendez-vous compte comme les températures sont en train de chuter. Eh bien, on ne va pas faire trop dans le détail, disons que ce sont soit des averses, soit des pluies continues. Les pluies les plus continues, donc dans l'Est et dans le Sud, et les averses pour la Poitou-Charente, la Vendée, le Centre, la région parisienne, quelques ondées aussi au milieu d'éclaircies. Enfin bref, c'est une journée pas folichonne quand même. Hein. Les températures s'écroulent, on l'a dit, 12 à Lille, 13 à Paris cet après-midi, 13 à Caen et Belfort, 14 à Toulouse et Lyon, 15 à Bordeaux, 16 à Bayonne et 20 degrés à Marseille.
Merci Laurent, on fera un point avec vous tout à l'heure, juste avant 6h30.
Europe Matin, le 5-7. Sébastien Krebs.
Bienvenue sur Europe 1 si vous nous rejoignez ce matin. On se réveille ensemble et on s'informe avec un nouveau journal. Bonjour Jérôme Lacroix.
Bonjour Sébastien, bonjour à tous.
Il est précisément 6h.
Coffrein.
Fusillade en plein centre de Vienne, en Autriche, 6 lieux visés, 3 morts. Bilan provisoire, les dernières précisions dès le début du journal. Les projecteurs du monde entier braqués sur l'Amérique. Aujourd'hui, jour du vote, jour du choix. Donald Trump, Joe Biden, Washington se barricadent par crainte de violence à l'issue du scrutin. Dans ce journal, l'Église attaque l'État pour protester contre les célébrations sans assistance. Et puis, élèves masqués, professeurs marqués. C'était la rentrée des classes hier entre protocoles sanitaires renforcés et hommage à Samuel Paty.
Après le journal, mon invité inattendu remettre en scène le match Trump-Biden en version jeu vidéo. Et ça ressemble plus à un combat à main nue qu'à une campagne électorale. Vous verrez, la bagarre en guise de défouloir plutôt. Hein, sur son téléphone portable, vous choisirez votre camp. Et puis on retrouvera Fanny Agostini pour notre planète. Bienvenue, bon réveil, 6h01.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Vienne, profiter de derniers instants de légèreté avant le début aujourd'hui d'un mois de confinement. Des tireurs armés ont brisé hier soir cette quiétude. Fusillade en plein centre-ville. Le chancelier Sébastien Kurz dénonce une attaque terroriste qu'il qualifie aussi de répugnante. Bilan provisoire, 3 morts, dont un assaillant.
Jeanne Bergaoui, vous êtes avec nous en direct. On suit depuis ce matin en direct l'évolution de la situation. L'un des suspects est toujours en fuite.
Absolument, la chasse à l'homme dure maintenant depuis plus de 9 heures. La police est à la recherche d'au moins un homme lourdement armé, mais il pourrait y avoir d'autres assaillants, selon le ministre de l'Intérieur. Vienne est donc bouclée depuis cette nuit. Policiers et militaires ratissent la ville. Des hélicoptères survolent la zone. Des barrages sont mis en place un peu partout dans la capitale. Et pour éviter que le suspect ne quitte le pays, le contrôle aux frontières est renforcé. Tant que les opérations de police continuent, les autorités appellent la population à rester à la maison. Ce sont donc 6 lieux différents en plein cœur de la capitale qui ont été visés. Le bilan fait état d'au moins 2 morts. 15 personnes sont hospitalisées, dont 7 dans un état grave. Et puis un mort du côté des assaillants abattus par la police hier, peu après les premiers tirs, vers 20h. Alors pour l'instant, les autorités n'avancent aucune piste sur le profil des auteurs de cette attaque. Mais on devrait en savoir un peu plus rapidement, puisque le ministre de l'Intérieur va s'exprimer dans quelques minutes lors d'une conférence de presse. Quant au chancelier Sébastien Kurz, il convoque un conseil spécial des ministres par vidéoconférence tout à l'heure à 9h. Il s'adressera ensuite à la population avec un discours.
Jihan Bergawi et condamnation unanime de l'attaque en Europe et dans le monde. Nos ennemis doivent savoir à qui ils ont affaire. Nous ne céderons rien, a réagi Emmanuel Macron. Et à l'instant, Donald Trump dit que les attaques du mal doivent cesser après ces attentats.
Justement, Donald Trump, on va partir aux États-Unis. Les bureaux de vote vont ouvrir dans quelques heures. C'est l'heure du choix.
Jusqu'au bout, les deux candidats, Trump-Biden, auront tenu meeting les derniers cette nuit. L'Amérique fébrile, Washington notamment, on craint des débordements en cas de défaite de Donald Trump. En ligne avec nous, Sonia Dridi, correspondante d'Europe 1. Sonia, les commerçants de Washington se barricadent.
Oui, depuis quelques jours, on entend des bruits de perceuses et de marteaux à tous les coins de rue. La capitale a des airs de camp retranché. Beaucoup craignent des violences au lendemain de l'élection. Et la ville est déjà quasi déserte. De nombreux habitants, comme Bilma, qui travaille dans un magasin du centre-ville, ont décidé de ne pas se rendre au travail aujourd'hui.
Je ne vais pas au travail, il vaut mieux rester en dehors du centre pour être en sécurité.
Gérald est un agent de sécurité d'un immeuble abritant un cabinet d'avocats. Il fait partie des rares personnes à aller travailler en ce jour d'élection.
On a mis des planches de bois sur la devanture. On a aussi mis des films de sécurité pour protéger les vitres. On s'attend au pire, mais on espère que tout se passera bien.
Cet afro-américain est républicain, mais il a décidé cette année de voter pour le candidat démocrate Joe Biden.
Trump n'est pas conservateur. Il est opportuniste.
Stewart, un électricien, a lui voté pour Donald Trump. Il pense que quel que soit le résultat, des Américains descendront dans les rues.
Il va y avoir des troubles, que ce soit Biden ou Trump le vainqueur, il y en aura.
En prévention des différentes manifestations prévues et de possibles heurts, la Maison-Blanche a fait ériger hier soir de nouvelles barrières pour se calfeutrer un peu plus.
Scrutin présidentiel américain à vivre sur Europe 1, édition spéciale dès 18h ce soir, puis toute la nuit prochaine. Résultat en direct, état par état.
Il est 6h05 sur Europe 1. Les élèves du collège du Bois d'Aulne, celui où enseignait Samuel Paty, retrouvent leur classe aujourd'hui.
Avec beaucoup de temps consacré à des échanges autour du drame, ils rentrent 24 heures après les autres. Rentrée hier marquée par l'émotion du corps enseignant après l'assassinat de Samuel Paty le 16 octobre. Chaque établissement a rendu un hommage via une minute de silence. Recueillement indispensable selon Sandos, maman musulmane. Ses enfants sont scolarisés dans le 11e arrondissement de Paris.
Moi, j'ai été très touchée de cet hommage, surtout que je suis de religion musulmane et je ne cautionne pas ce qui s'est passé. Et pour moi, c'était très important aujourd'hui d'être présente pour dire stop à cette barbarie et qu'on ait le droit et la liberté d'expression, peu importe nos origines et nos religions, et qu'on ne peut pas commettre des actes aussi violents que décapiter un enseignant pour des caricatures. J'en ai beaucoup parlé avec mes enfants, c'était très important pour nous de leur expliquer qu'on avait le droit à la liberté d'expression, que c'était que des caricatures, des dessins, que notre religion, c'est une religion de paix et non pas de barbarie, et qu'il fallait savoir accepter toutes les critiques et avoir la foi en soi.
Et comment justement mieux faire entendre la voix des musulmans? Il en sera question tout à l'heure à 6h40 avec mon invité à 6h40. Il est l'un des représentants de l'islam de France, ancien président du CFCM, et il a participé hier à une réunion avec plusieurs représentants des musulmans de France. On parle de vêtements à présent, de cosmétiques, de fleurs. Lesquels de ces produits trouverez-vous encore dans vos supermarchés ces prochains jours? On attend hein, les précisions du gouvernement
le
aujourd'hui.
Le décret doit être publié aujourd'hui. L'exécutif entend interdire aux grandes surfaces de vendre ces produits dits non essentiels à partir de demain. Les grandes surfaces qui ont âprement négocié produit par produit. Il s'agit de ne pas faire de concurrence aux petits commerces qui, eux, doivent fermer en raison du confinement. Le gouvernement va détruire les loups gris, annonce du ministre de l'Intérieur hier, un groupuscule turc d'extrême droite radicale.
Soupçonné d'être impliqué dans des confrontations violentes avec des membres de la communauté arménienne dimanche dernier près de Lyon. Jean-Jacques Héry, qui sont ces loups gris et que représente cette organisation ?
En France, les loups gris n'ont rien d'officiel, ni statut, ni organigramme. Et pour cette raison, difficile d'évaluer le nombre de ses partisans ou de ceux qui s'en réclament. Car les loups gris, c'est d'abord une mouvance nationaliste née en Turquie dans les années 60. Anticommunisme et xénophobie en constituent les fondements. Et dans les années 70, le groupuscule se distingue par des attaques violentes contre les minorités et les sympathisants de gauche. Aujourd'hui, les loups gris sont une organisation légale en Turquie, réputée proche du président turc Recep Tayyip Erdogan. Mais ils sont également présents en Europe, où leur signe de ralliement est régulièrement visible dans l'espace public. Le pouce, le majeur et l'annulaire joint, l'index et l'auriculaire dressé, le tout formant le profil et les oreilles d'un loup. Pour plusieurs experts, leur influence au sein de la communauté turque est à relativiser, même si le mouvement semble avoir une grosse capacité de mobilisation. C'est lui, notamment, que l'on soupçonne d'être à la manœuvre dans les manifestations anti-arméniennes dans la région lyonnaise. Un regain d'activisme nationaliste qui pourrait être exacerbé par l'actuelle crise diplomatique entre Paris et Ankara.
L'enquête après l'attentat de Nice jeudi dernier, un seul homme désormais en garde à vue, tunisien de 29 ans, qui a voyagé avec le terroriste présumé de la Tunisie vers la France. L'assaillant, lui, a survécu à ses blessures par balles infligées par les policiers et il a été déclaré positif au Covid-19, ce qui va encore retarder le début de son interrogatoire.
Europe 1.
À suivre dans ce journal de 6 heures après la fronde des petits commerces impactés par le confinement. Voici la fronde de l'Église qui attaque l'État en justice.
Et puis les écolos contre les chasseurs, une histoire de gros gibier.
À tout de suite, bon réveil, il est 6h09.
Europe Matin, le 5-7, Sébastien Krebs.
Il est 6h10 sur Europe 1, la suite du journal avec Jérôme Lacroix.
Après la fronde des petits commerces contre les mesures du confinement, la fronde de l'Église qui attaque l'État en référé recours devant le Conseil d'État. Alors les églises, comme tous les lieux de culte, restent ouverts. Les célébrations sont possibles, mais sans assistance. L'Église veut que soient autorisées les cérémonies avec présence des fidèles. Virginie Riva.
Oui, pour l'Église, l'interdiction de réunir les fidèles pour la messe ou la célébration de baptême porte atteinte à la liberté fondamentale de culte. L'Église avait joué le jeu pendant le premier confinement, mais là, elle considère que cette interdiction n'est pas juste, comme l'explique Vincent Némon, porte-parole de la Conférence des évêques de France.
La liberté de culte est une liberté fondamentale reconnue comme telle. Et donc, si cette liberté fondamentale ne peut pas s'exercer, a fortiori, d'autres libertés qui ne sont pas décrétées comme fondamentales devraient aussi être empêchées. Celle d'être en entreprise, celle de prendre les transports, celle d'aller dans les parcs et jardins, etc. Or, ces libertés-là ne sont pas contestées. Et donc, c'est à ce titre-là que nous réclamons, cette fois-ci, de pouvoir... toujours en respectant les mesures qui sont en vigueur, se réunir dans les églises.
Une action validée par tous les évêques de France, quelques jours seulement après les attentats de Nice et le besoin de recueillement consécutif. Leur président dit en avoir averti le Premier ministre dans une lettre qu'il lui a envoyée il y a 2 jours. Le référé devrait être examiné ce jeudi par le Conseil d'État.
Et toujours sur le front de l'épidémie, l'aggravation de la situation.
Ces dernières 24 heures, plus de 400 morts supplémentaires, 52 000 nouvelles contaminations, plus de 3 700 malades sont désormais en réanimation. Et dans le monde, la barre des 1 million de morts est franchie. Le Covid a tué 1 200 000 personnes.
Les chasseurs ont eux obtenu une dérogation pour la traque du gros gibier, sanglier, chevreuil par exemple. Colère des écologistes qui dénoncent un passe-droit accordé à un lobby. Les chasseurs mettent en avant la régulation de ces populations de gros gibier qui peuvent endommager les champs et les forêts, Virginie Salmen.
Oui, et pour le patron des chasseurs, Willy Schran, c'est même une mission de service public que de tirer 500 000 sangliers en 2 mois.
La chasse entre le 1er novembre, on va dire, et la fin du mois de décembre en France, c'est 1 200 000 grands animaux. 1 200 000, c'est les champs de blé, les champs de maïs, les champs de betteraves, la vigne, où ces animaux vont se répandre dès le printemps et causer énormément de dégâts. Si on chassait pas cette population-là, au printemps prochain, ce serait des centaines de millions d'euros de dégâts.
Mais évidemment, chez les écologistes, c'est un autre son de cloche. Pour eux, les chasseurs entretiennent les populations de sangliers, notamment en les nourrissant aux abords des champs, pour avoir suffisamment de gibier à chasser, selon Richard Holding de l'ASPAS, l'Association pour la protection des animaux
sauvages.
Et ils se sont retrouvés complètement débordés. Parce qu'en fait, le problème des sangliers, on pourrait le régler très très rapidement avec des moyens différents que ceux de la chasse, la stérilisation massive ou le piégeage. Mais en fait, on continue à faire appel aux chasseurs. Et donc, ils sont vraiment dans une posture aujourd'hui de pompiers pyromanes.
Le gouvernement a tranché, la chasse aux sangliers, chevreuils et cerfs est une activité d'intérêt général pendant le confinement. Des quotas de gibier par département vont maintenant être négociés dans les jours qui viennent.
Virginie Salmène. C'était le journal de Jérôme Lacroix sur Europe 1. Il est 6h13.
Retrouvez le journal des sports avec Winamax. Winamax, les meilleures cotes.
Les sports avec Lénaïque Monnier et à la une l'OM qui joue le tout pour le tout en Ligue des Champions.
Marseille a déjà perdu ses deux matchs précédents contre l'Olympiakos et Manchester City. Il reste donc les Marseillais sur 11 défaites d'affilée dans la compétition. Et ce soir, il faudra tout donner à Porto, un adversaire direct dans la course aux huitièmes de finale. Écoutez Dimitri Payet.
Je pense que c'est la dernière chance, on va dire. Après 0 points en deux matchs, bien évidemment que les supporters peuvent attendre autre chose, nous aussi. On est frustrés parce que voilà, on sent que sur ce premier match, on perd dans les arrêts de jeu. Sur le deuxième, City, je pense, voilà, c'est un niveau au-dessus, il faut le dire. Voilà, on est conscient du fait qu'il faut faire plus, qu'il faut faire beaucoup plus, parce que c'est une compétition qui est exigeante et qui demande vraiment qu'on soit tous à notre meilleur niveau.
Dimitri Payet avec Jean-François Pérez. Paris, de son côté, joue demain à Leipzig. Kylian Mbappé, qui a une douleur persistante à la cuisse, est très incertain.
Diego Maradona, lui, est à l'hôpital.
Oui, depuis hier soir, les raisons de cette hospitalisation ne sont pas très claires. Une chose est sûre, les médias indiquent que ce n'est pas lié au Covid. Ses tests sont négatifs. En revanche, il est apparu ces derniers jours très affaibli. Maradona, qui a eu 60 ans vendredi.
Le tennis, il a enchanté Roland Garros. Hugo Gaston a enchaîné aussi, il était de retour hier à Bercy.
Oui, mais cette fois, pas de miracle. Pour le 161e joueur mondial, battu d'entrée 6-3-6-2 face à l'Espagnol Busta, 15e mondial, donc défaite logique pour le jeune Toulousain.
La marche était très haute, j'ai perdu 6-3-6-2, donc il n'y a rien à dire, il était plus fort que moi sur ce match-là. Il va falloir que je retourne m'entraîner pour être meilleur la prochaine fois. Mais voilà, ça fait aussi partie du métier. Des fois on gagne, des fois on perd. Mais voilà, c'est pas parce que j'ai fait 8e de finale à Roland-Garros que ça y est, je vais plus perdre au premier tour ou quoi. Au contraire, faut passer par là aussi. Et voilà, ça va me rendre plus fort pour être meilleur la prochaine fois.
Hugo Gaston avec Corinne Boulou, Hugo Humbert, Corentin Moutet et Benjamin Bonzi, eux, sont qualifiés.
La Fédération de judo affirme traiter toutes les affaires après des accusations de viol.
Oui, une jeune femme raconte notamment son calvaire vécu il y a 10 ans. Quand elle était âgée de 13 ans, elle affirme avoir été violée pendant des mois par celui qui était alors son prof de judo. La Fédération a annoncé avoir déjà écarté un certain nombre d'éducateurs. Écoutez Jean-René Girardeau, son vice-président.
Nous avons maintes fois lutté en traduisant dans la commission de discipline fédérale des personnes, des enseignants en général. Nous avons supprimé leur licence. Nous pouvons, par mesure conservatoire, ce que nous faisons, les écarter de tout enseignement en attendant que la justice passe.
Sur l'année 2020, vous savez combien d'éducateurs ont été écartés justement à titre préventif en attendant que la justice suive son cours ?
Oh, peut-être 3 au niveau national.
Jean-René Girardeau de la Fédération française de judo au micro européen de Simon Rubin.
L'actu des sports, signé Lénaïque Monnier ce matin.
C'était le journal des sports. Toute l'actu pour bien parier est sur Europe 1 avec Winamax. Winamax, les meilleures cotes. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
Europe 1. Il est 6h17 et c'est l'heure de découvrir qui est l'invité inattendu du 5-7 ce matin. Il a décidé de rejouer la présidentielle américaine en version jeu vidéo. Bonjour Abdel Bounan.
Bonjour, ici Abdel de Bright.
Vous présidez ce studio Bright qui a créé donc cette application pour mobile Unpresidential. Permet de choisir son camp entre Trump et Biden et de disputer le combat, mais alors le combat à main nue, c'est virtuel, histoire de se défouler peut-être en attendant les résultats. Vous allez nous dire ça dans quelques secondes. À tout de suite sur Europe 1.
Sébastien Krebs sur Europe 1.
À 6h19, l'invité inattendu du 5-7 rejoue donc la présidentielle américaine en version jeu vidéo. Abdel Bounan, vous avez donc créé cette application, ce jeu Unpresidential, non présidentiel en français, non politiquement correct aussi, non ?
C'est à la fois, en effet, un jeu de baston, un jeu de combat entre Joe Biden et Donald Trump, donc avec tous les codes du jeu vidéo, les attaques, les coups spéciaux, tout ce que vous pouvez imaginer, mais aussi, en effet, irrévérencieux dans le sens où c'est aussi un jeu vidéo parodique, caricatural et très éditorialisé, où chacun des coups spéciaux fait référence au parcours, à la personnalité, au programme de chacun des candidats. Dans une presidential, vous pourrez lancer des coups spéciaux qui s'appellent côté Trump, Poutine à la rescousse, méga maga, fake news punch, ou encore pyromane du climat côté Biden, une attaque contre Donald Trump, fake job attack, working class Joe, etc. Alors, etc. Attendez, plein de coups spéciaux qui finalement font vraiment référence encore une fois au programme.
On va écouter justement ce que ça donne quand on joue à ce jeu. Donc on a deux marionnettes de Donald Trump et de Joe Biden qui se mettent des coups de poing et des coups de pied. Hein. C'est l'ambiance Street Fighter de l'époque, quoi.
C'est ça. Il y a beaucoup de codes qui viennent du jeu vidéo, des jeux vidéo de baston, hein, Tekken, Street Fighter, Soul Calibur. Donc avec beaucoup de réflexes. C'est à la base, c'est effectivement un vrai jeu de baston. Il y a aussi des special events avec des événements spéciaux qui apparaissent comme Melania Trump. Donc Melania Trump tweets. Donc là, c'est un événement qu'il va falloir gérer. Et donc du coup, effectuer un certain nombre de mouvements d'agilité. Donc il y a ce côté parodique dont j'ai parlé, mais à côté, c'est évidemment beaucoup de mécaniques de jeu qui sont liées effectivement aux jeux vidéo, comme vous dites, Street Fighter, Tekken, etc.
D'où vous est venue cette idée de transformer cette présidentielle américaine en jeu de baston, comme vous dites?
Oui, alors chez Bright, on produit toute l'année des expériences digitales, interactives, ludiques. Et donc pour la fin d'année, on s'est demandé quel thème serait intéressant à traiter, quel thème serait intéressant à rendre amusant par les temps un peu moroses qui courent. Évidemment, avec le désintérêt des gens pour la politique, malheureusement, on s'est dit que produire un contenu interactif, ludique autour de la politique, ce serait complètement inattendu et que par ailleurs, ce serait vraiment amusant à produire. Et donc là-dessus, les élections américaines arrivent un peu comme une évidence. Et donc Donald Trump versus Biden, on s'est dit ok, là c'est évident, il faut faire un jeu de vidéo de baston, un jeu vidéo de combat entre les deux.
Alors on l'a compris, c'est un peu potage, c'est caricatural, c'est une sorte de défouloir en fait pour éliminer toutes les tensions de cette présidentielle.
Oui, c'est un défouloir parce qu'effectivement, nous beaucoup de joueurs nous ont dit ces derniers jours en découvrant le jeu que prennent beaucoup de plaisir à mettre des coups de poing et des coups de kick à Donald Trump. Ça, il y a vraiment un effet cathartique
corps,
apparemment,
ouais.
De pouvoir taper sur Donald Trump. Ça, on l'avait pas forcément
vous
imaginé
pourriez le transformer
comme ça.
Avec des personnalités françaises.
Oui, alors le jeu a été imaginé en termes vraiment la technologie a été faite pour pouvoir rajouter assez facilement des nouveaux coups spéciaux et des nouveaux personnages. Donc en fonction de l'actualité, rajouter Emmanuel Macron ou bien d'autres personnages de
avec
la scène.
Avec qui vous allez le faire se battre, Emmanuel Macron
ou un Poutine? Ce serait possible. Pardon, j'ai pas entendu.
Le faire se battre, Emmanuel Macron contre qui?
Oh bah du coup en fonction de l'actualité, il faudra voir. Nous on espère que ce sera Joe Biden. On espère que ce sera que si l'actualité doit effectivement se battre Emmanuel Macron contre un personnage, on espère que ce sera Joe Biden. On verra ça aux élections très vite dans quelques heures.
Voilà, ça s'appelle donc Unpresidential si vous voulez rire un petit peu en attendant les résultats de cette campagne présidentielle américaine et jouer donc le match à main nue entre Donald Trump et Joe Biden à travers votre téléphone portable. Merci Abdel Bounane, président du studio
Merci
3D Bright. Merci beaucoup. Bonne journée.
Europe 1, Sébastien Krebs.
Il est 6h23 sur Europe 1. Trois morts, dont l'un des assaillants. Le bilan des fusillades hier soir en plein centre-ville de Vienne, en Autriche. Six lieux différents ont été visés selon la police. 15 personnes sont hospitalisées, dont 7 dans un état grave. Il est un peu plus de minuit sur la côte est des États-Unis. Le vote a déjà commencé dans un village du New Hampshire. Le premier traditionnellement à démarrer les opérations de vote pour cette présidentielle. Donald Trump prédit une magnifique victoire. C'était lors de son tout dernier meeting de campagne dans la soirée. Et puis la présidentielle cette fois en Côte d'Ivoire et le sortant Alassane Ouattara déclaré vainqueur ce matin par la commission électorale, déclaré réélu pour un troisième mandat controversé avec plus de 94% des voix au premier tour. L'opposition avait boycotté le scrutin.
Europe 1.
Et bonjour Fanny Agostini.
Bonjour Sébastien, bonjour à tous.
On vous retrouve dans un instant pour notre planète, à tout de suite.
Europe Matin, le 5-7. Sébastien Krebs.
Il est 6h26 sur Europe 1 et c'est l'heure de retrouver Fanny Agostini pour notre planète. Fanny, le confinement précédent avait permis d'atténuer certaines pollutions, dont la pollution lumineuse. Est-ce que c'est encore le cas avec ce deuxième confinement ?
Oui, c'est encore le cas. Ils sont nombreux, les maires, ayant pris la décision, encore une fois, que les avenues, boulevards, rues et ruelles ne seraient pas sous les spotlights. Éteindre les lumières, question de bon sens, étant donné les nuits inanimées qui vont se succéder jusqu'à la levée des restrictions. Alors pour ces élus, c'est avant tout un moyen de faire des économies d'énergie, mais éteindre la lumière la nuit irait bien plus loin avec des bénéfices insoupçonnés.
Alors vous nous dites que moins de lumière artificielle, ça fait aussi du bien aux arbres.
Mais oui, alors on savait, Sébastien, que la pollution lumineuse était néfaste pour la faune, les insectes, les oiseaux migrateurs, les amphibiens et les autres animaux susceptibles d'être déboussolés par cette absence d'alternance entre le jour et la nuit. Mais l'impact sur les arbres nous avait échappé jusqu'à présent. Or, plusieurs études démontrent une corrélation entre l'exposition à la lumière artificielle et la perturbation de la germination, la croissance, l'expansion des feuilles, la floraison, le développement des fruits et le vieillissement des arbres. L'attention a été portée spécifiquement sur l'érable, le sycomore, l'hêtre, le chêne et le frêne, qui ont tous montré un bourgeonnement précoce par rapport à des individus non exposés à nos lampadaires. Et figurez-vous que plus une zone est illuminée, plus les anomalies seraient marquées.
Et en partant des arbres, du coup, c'est toute la chaîne alimentaire qui est touchée.
Très juste, ça va plus loin que la seule perturbation du cycle de vie des arbres. Non seulement les bourgeons qui s'ouvrent trop tôt s'exposent au gel qui peut leur être fatal, mais cela perturbe aussi toutes les espèces inféodées aux arbres et pour qui le bourgeonnement veut dire go go go, c'est le printemps. Ainsi, les chenilles qui se nourrissent du feuillage vert tendre jusqu'aux oiseaux qui se nourrissent de ces mêmes chenilles sont touchées, ou encore les abeilles qui ne sont pas encore sorties des ruches et ne seront pas synchro du coup pour aller polliniser, etc. On comprend alors qu'une anomalie par effet ricochet aura un impact sur toute la chaîne alimentaire. C'est donc au printemps prochain que nous pourrons apprécier les répercussions de ces nuits plus calmes et plus noires sur les arbres, ce qui devrait aussi nous permettre, vous l'avez compris, de voir plus d'insectes et plus d'oiseaux, et peut-être fera prendre des décisions à l'ensemble de nos élus pour que ces nouvelles habitudes s'étendent au-delà du confinement.
Voilà, réduire l'éclairage public, c'est bon pour les arbres, et pas seulement, nous dit ce matin Fanny Agostini, notre planète. Tous les matins à 6h25, à demain Fanny.
À demain.
Laurent Cabrol, un point sur la météo avant le journal de 6h30.
C'est pas folichon aujourd'hui, hein. C'est une journée qui sera une journée de transition puisqu'à partir de demain, le temps va devenir beaucoup plus sec, plus froid aussi, plus sec, mais mercredi, jeudi, vendredi seront des journées au soleil gagnant. Et samedi, dimanche, la pluie devrait revenir. Voilà les grandes tendances des jours à venir. Aujourd'hui, eh bien, les éclaircies seront là sur le Poitou-Charentes, les Pays de la Loire, sur Paris et sa région, sur la Champagne-Ardenne, mais des éclaircies ce matin avec quelques ondées ici ou là, et Paris pourrait avoir quand même des averses en deuxième partie de journée. Sur le Limousin, le Dijonais, le Vosges, la Lorraine, l'Aquitaine et le Béarn, des pluies en voie d'atténuation. Si vous êtes dans le Piémont pyrénéen, sur l'Alsace, la Franche-Comté, la région Rhône-Alpes, le Berry et le Morvan, des averses. Et les pluies continuent plutôt cet après-midi. Enfin, sur la Manche, un temps agité. Voilà, orageux, giboulé, enfin bref, c'est pas sympa. Voilà, les températures maximales en baisse, mes amis. 12 à Brest, 12 à Lille, 13 à Dijon, Paris, 14 à Toulouse et Lyon, 15 à Bordeaux, 16 à Bayonne.
Pas folichon et pas très chaud.
20 à Marseille. Je sens que vous voulez conclure, c'est fait.
Merci Laurent Cabrol, à tout à l'heure.
Europe Matin, le 5-7. Sébastien Krebs.
Bienvenue sur Europe 1, si vous nous rejoignez. Tout de suite, un nouveau journal. Bonjour François Geffrier.
Bonjour Sébastien, bonjour à tous.
Il est précisément 6h30.
On aurait bien adoré être aux États-Unis sur place avec tous nos amis démocrates.
Et on lancerait la bouteille de champagne et on aurait fait la fête, on aurait crié, pleuré, dansé toute la nuit.
Et oui, une soirée électorale à l'américaine, c'est plus compliqué à faire cette année, surtout pour les expatriés en France, confinés comme nous. En Autriche, 3 morts, 15 blessés après l'attaque hier soir de 6 lieux de la capitale Vienne. Un assaillant est en fuite. Et puis à Conflans-Sainte-Honorine, la rentrée aujourd'hui de collégiens pour certains traumatisés par l'assassinat de Samuel Paty. Témoignage Europe 1.
Europe 1. Comment mieux faire entendre la voix des musulmans de France face au terrorisme et contre l'islamisme radical? Hier, plusieurs représentants du culte se sont réunis pour condamner le terrorisme et adresser aussi un message au monde arabe qui manifeste contre la France. L'ancien président du CFCM, Anouar Bibesh, y a participé. Il est mon invité dans 10 minutes. À suivre aussi la revue de presse internationale et l'innovation du jour d'Anissa Mbida. Bon réveil, il est 6h31.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
La campagne s'est terminée sur les chapeaux de roue aux États-Unis cette nuit avec plusieurs meetings de Donald Trump et un dernier aussi de Joe Biden.
Même si près de 100 millions d'Américains ont déjà voté par anticipation, c'est bien aujourd'hui, ce mardi, qu'a lieu officiellement l'élection présidentielle, ce qui se traduit aussi, comme à chaque fois, par de longues soirées de suspense.
Oui, dans les QG, sur les télés américaines, mais aussi pour tous ceux qui suivent ce moment depuis la France. Hélène Terzian a rencontré des expatriés un peu frustrés de vivre cela sous la contrainte du confinement.
Moi, j'ai une ambiance de QG de guerre, quoi. J'ai pas une ambiance de soirée électorale comme j'ai pu les connaître.
La télé allumée sur Fox News, chaîne pro-Trump, dans le salon, un bureau pour suivre sur son ordinateur les réactions sur les réseaux sociaux. Le voilà, le QG de guerre de Vanessa Bihar-Scheffer. Son attirail de militante républicaine ne sera qu'une maigre consolation.
J'ai mon pins Trump, un très gros pins rond avec Trump dessus, qu'on m'avait offert. J'ai aussi mes boucles d'oreilles américaines. Donc ça, je l'aurai évidemment sur moi. Mais on sera pas en train de faire une soirée tous ensemble, conviviale, autour d'un buffet. On va être obligé d'être séparés les uns des autres.
Chez les pro-Biden, on passera plutôt la nuit scotché devant CNN. Et si les sondages disent vrai, Gilbert est déjà déçu de ne pas vivre la chute de Trump dans son pays natal.
En fait, on aurait bien adoré être aux États-Unis sur place avec tous nos amis démocrates pour célébrer éventuellement une victoire écrasante de notre candidat. Et on lancerait la bouteille de champagne et on aurait fait la fête, on aurait crié, pleuré, dansé toute la nuit.
Une nuit qui sera encore plus pénible à vivre seul, dit-il, si Trump est de nouveau élu.
Hélène Terzian pour Europe 1, édition spéciale dès 18h ce soir et toute la nuit. Les résultats étapes par étapes demain matin dans la matinale d'Europe 1. Et avant cela, John Bolton, l'ancien conseiller de Donald Trump, invité de Mathieu Béliard à 7h40 ce matin.
Le bilan est revu à la hausse à l'instant à Vienne après les attaques d'hier soir. 3 morts dans ces fusillades, 15 blessés. L'assaillant, lui aussi, a été tué par la police.
Les fusillades ont eu lieu dans 6 lieux différents de la capitale autrichienne. Selon le ministre de l'Intérieur, Karl Nehammer, l'homme abattu est un sympathisant de l'État islamique.
C'est la journée la plus difficile pour l'Autriche depuis de nombreuses années. Malheureusement, il y a eu plusieurs blessés, plusieurs morts. Un terroriste lourdement armé, équipé d'un fusil d'assaut automatique, a été éliminé. Au moins un autre est en fuite. Alors s'il vous plaît, restez à la maison. Évitez le centre-ville. Demain, il n'y aura pas de scolarité obligatoire à Vienne. Donc si les parents le peuvent, les enfants peuvent rester à la maison. Nous pouvons affronter ensemble cette situation difficile. Si nous nous comportons de manière disciplinée, nos pensées vont aux familles des victimes. Une chose doit être claire, quiconque attaque l'un de nous, nous attaque tous.
Le ministre autrichien de l'Intérieur, Karl Nehammer, cette nuit.
C'est dans ce contexte qu'à Conflans-Sainte-Honorine doit se faire la rentrée scolaire ce matin, 2 semaines et demie après l'assassinat de Samuel Paty.
Oui, alors écoutez ce témoignage d'une maman de 3 enfants. 2 de ses filles sont au collège du Bois d'Aulne. La plus grande aujourd'hui en 3e a eu Samuel Paty pendant 3 ans. Il était même l'an dernier son professeur principal.
Elle a du mal à exprimer ses émotions. Elle a peur, elle n'est pas rassurée. Et quand elle en parle, en fait, elle fond en larmes. En tant que maman, c'est compliqué à gérer, hein, trouver les bons mots pour la rassurer. Après, c'est sûr que les rassemblements, la marche blanche, l'hommage à Samuel Paty qu'on a vu, ça l'a apaisé. Mon fils, il a 8 ans, donc il a dessiné un monsieur debout avec un couteau dans chaque main. Et à côté, donc, il y avait un corps et avec la tête dessinée à côté du corps, avec du rouge partout.
Qu'est-ce qu'on répond quand on voit ce genre de choses ?
Ben, on essaye de les rassurer le plus possible, parce que la vie, c'est pas que ça, quoi.
Témoignage recueilli pour Europe 1 par Nicolas Fellmann.
Il est 6h35. Les produits interdits en grande surface rurale vont particulièrement pénaliser les populations âgées, non mobiles et surtout non reliées à Internet.
Oui, qui ne peuvent pas profiter du click and collect dans les petits commerces. Exemple à Notre-Dame-de-Mont, c'est en Vendée où le magasin U-Express, 1500 m² est d'habitude providentiel pour tout ce bassin de population. Reportage de notre correspondant François Coulon.
À Notre-Dame-de-Mont, c'est ce supermarché qui avait sauvé les confinés du printemps, notamment grâce à ses rayons textiles et chaussures extrêmement bien fournis, des articles qui seront cette fois-ci interdits de vente aux grandes dames des 2045 habitants, moyenne d'âge 65 ans, Valérie.
Il y en a ici qui n'ont pas accès à Internet et qui vont en être privés. Des choses essentielles, hein, des vêtements, des sous-vêtements, des chaussettes, enfin des choses basiques hein, qu'on a besoin tous les jours. Ça va être super compliqué. Surtout qu'on ne sait pas combien de temps ça va durer. Si ça dure tout l'hiver, vous vous rendez compte ?
Ici, le commerce de proximité n'est pas un slogan bobo. La supérette est la dépanneuse du quotidien, martèle Alexandra, Ingrid et Annie.
Mon fils flingue sa paire de godasses, on ne peut pas aller en acheter. On n'a nulle part où aller, donc il se retrouve sans chaussures. On va laisser nos enfants avec des chaussures trouées ou cassées, la semelle à lâcher, voilà. Il n'y aura rien pour eux.
Je suis une maman de 4 enfants. Il faut que je me retourne sur Internet, on ne peut pas essayer. Le retour, comment ça va se passer? Ça va être une galère pas possible.
Les collants, tout ça, ça va manquer. Si vous avez des chaussettes trouées, tout ça, pour avoir des chaussettes, ça va être compliqué. Hein. Même les jeans, je ne comprends pas du tout le gouvernement. C'est complètement débile.
Il reste 24 heures pour faire le plein de produits jugés non essentiels. Notre-Dame-de-Mont, François Coulon, Europe.
Et notez que tout à l'heure à 8h15, la ministre du Travail, Elisabeth Borne, sera l'invitée de Sonia Mabrouk.
Alors, est-ce une coïncidence un peu délicate à gérer ou une opportunité peut-être? Le mois sans tabac a commencé dimanche, au troisième jour donc du reconfinement. Anne Le Gall, arrêter de fumer maintenant, ça peut paraître mission impossible, mais certains se lancent quand même.
Voilà, passer 30 jours sans allumer une cigarette, c'est le défi que se sont lancés près de 110 000 fumeurs français. Ils sont deux fois moins nombreux que l'année dernière. Mais pour ces clients croisés au bureau de tabac, il faut dire que l'ambiance actuelle n'incite pas vraiment au sevrage.
Je me vois pas trop rester chez moi, confiné, sans fumer ma petite cigarette pour, on va dire, décompresser.
Ras-le-bol du télétravail, du coup je ne prends même pas soin de ma santé.
Les chiffres montrent que lors du dernier confinement, en mars, un quart des fumeurs avaient même augmenté leur consommation. Pourtant, explique le docteur Marion Adler, tabacologue, ce contexte de crise sanitaire et économique peut au contraire être un argument de motivation supplémentaire.
Il faut d'autant plus que je me protège la santé. Et puis, j'aurai déjà tout l'argent que je mets dans les cigarettes en plus pour moi si j'arrête de fumer.
Ce qui fait 300 euros d'économie par mois pour celui qui fume un paquet par jour. Et comme les patchs ou les gommes à la nicotine sont entièrement remboursés, précise ce médecin, le bénéfice démarre dès la première cigarette qu'on n'allume plus.
Anne Le Gall.
C'était le journal de François Geffrier sur Europe 1. Il est 6h38.
Europe 1.
Et j'accueille l'invité du 5-7 qui nous rejoint en direct. Bonjour Anne-Laure Bibesch.
Bonjour.
Bienvenue dans le studio d'Europe 1. Merci d'être avec nous. Vous étiez hier à la Grande Mosquée de Paris aux côtés de plusieurs autres représentants de l'islam de France. Vous êtes l'ancien président du CFCM. Le terrorisme islamiste a à nouveau frappé en Europe, à Vienne. On va en parler. Vous adressez aussi un message au monde arabe qui manifeste contre la France. A tout de suite sur Europe 1.
Sébastien Krebs sur Europe 1.
Il est 7h20 sur Europe 1 et l'ancien président du CFCM, Anne-Laure Bibesch, est l'invité du 5-7 en direct. Vous présidez aujourd'hui le Rassemblement des musulmans de France. Un mot d'abord sur ces attaques commises hier soir à Vienne. Il y a au moins 3 morts, plusieurs blessés graves. Un suspect est toujours en fuite, un autre a été tué et on apprend à l'instant que c'était un sympathisant de Daesh. C'est donc le terrorisme islamiste qui a à nouveau frappé l'Europe.
Oui, tout à fait. Cette escalade nouvelle tragique dans le terrorisme qui se réclame de l'islam confirme effectivement que la menace est présente et confirme que cette gangrène des temps modernes est en train de passer dans une métastase et ça nécessite une prise de conscience de l'ensemble des sociétés, notamment en Europe, une prise de conscience qui doit nous inciter à nous mobiliser tous et à faire face ensemble, en bloc, que ce soit au niveau de la France, que ce soit au niveau de l'Europe, vis-à-vis de cette menace persistante.
Et c'est une menace à laquelle les musulmans eux-mêmes doivent faire face, et doivent peut-être aussi s'exprimer. C'est ce que vous faites ce
oui,
matin.
Oui, tout à fait. Je pense que tout le monde a une part de responsabilité dans ce qui se passe, et les musulmans doivent prendre leur responsabilité dans ce combat contre ce terrorisme qui se réclame de la religion musulmane. Et je pense qu'il y a un travail qui ne peut être fait que par les musulmans eux-mêmes.
Ils ne le font pas assez.
Si, ils le font, ils communiquent, ils essaient d'agir, mais je pense qu'il faut maintenant qu'on passe à une phase supérieure, à une étape supérieure, où il doit y avoir une mobilisation de tous les instants et travailler main dans la main avec l'ensemble des acteurs qui sont concernés par la prévention de la radicalisation et par le fait de juguler le terrorisme.
Alors vous avez justement participé à une réunion hier, je le disais, avec plusieurs représentants du culte musulman organisé autour du recteur de la grande mosquée de Paris. Il en est ressorti notamment un message que vous adressez aux pays arabes après les très violentes manifestations qu'on a vues ces derniers jours, notamment au Pakistan, des manifestations visant clairement la France. Qu'est-ce que vous dites à tous ces musulmans qui ne sont pas des musulmans français pour le
coup ? Alors au-delà des pays arabes, c'est l'ensemble des pays musulmans. Notre message était de vouloir témoigner en tant que musulmans de France de ce que nous vivons en tant que citoyens français de confession musulmane. Nous avons voulu indiquer effectivement, une fois qu'on a vu ces images de drapeaux de la France brûlés ou de portraits du président de la République piétinés, que les musulmans de France ne sont pas les Ouïghours de la Chine, les musulmans de France ne sont pas les Rohingyas de la Birmanie, ne sont pas les juifs du siècle passé. Nous vivons pleinement notre religion dans un cadre laïque, respectueux de la liberté de conscience et de la liberté de croire et de ne pas croire. Bien sûr, il peut y avoir des actes anti-musulmans, et il y en a. Et c'est pas pour autant qu'on peut parler d'un État islamophobe ou d'une France islamophobe ou anti-musulmane. Je pense qu'il faut faire la part des choses. Il y a aussi des actes antisémites qui peuvent monter, qui peuvent descendre suivant la conjoncture. Et c'est pas pour autant qu'on parle d'une France antisémite ou d'un État antisémite. Mmh. Donc nous avons voulu témoigner en tant que musulmans pour dire que derrière, il y a eu peut-être une mauvaise interprétation, au mieux, des propos du président de la République à la Sorbonne, voire une manipulation de ces propos qui font que derrière, il y a un certain nombre de nos co-religionnaires à travers le monde qui manifestent. Or, aujourd'hui, personne ne soutient la publication au niveau du gouvernement, la publication de ces caricatures. Elles sont faites par des organes qui sont totalement libres, des organes de presse qui sont libres. Et les musulmans peuvent être blessés, peuvent être choqués par tel ou tel dessin, mais on répond à un dessin par un dessin, à un texte par du texte, et pas par de la violence, et encore moins par le terrorisme.
Et dans votre texte, vous dénoncez le terrorisme et toute forme de violence commise au nom de l'islam. Sauf que toutes les autorités françaises, de l'islam de France, n'étaient pas là, et notamment le président du CFCM, votre successeur, parce que vous l'avez été il y a quelques années, n'étaient pas à vos côtés. Comment mobiliser la communauté musulmane quand ses dirigeants eux-mêmes sont divisés ?
Non, mais le président du CFCM, à ma connaissance, était invité à cette rencontre. Cette rencontre n'était pas un club fermé. C'était pas une fin en soi, c'est un début d'un processus.
Il n'est pas signataire de la déclaration que vous avez sortie.
Oui, tout à fait, mais je dirais que la démarche englobe, au-delà du CFCM, un certain nombre de mosquées, de fédérations indépendantes qui ne sont pas forcément représentées au CFCM. Et l'objectif, justement, c'est de créer une dynamique qui permette par la suite de fédérer, de mobiliser l'ensemble des composantes de l'islam de France.
Alors vous disiez, il faut que les musulmans se mobilisent encore plus. Qu'est-ce que vous leur dites à ceux qui nous écoutent ce matin ? Comment se mobiliser ? Sous quelle forme ? Comment prendre la parole ? Être plus visible ?
Oui, je pense que déjà, il faut qu'il y ait une prise de parole claire et nette. Les musulmans de France, avec leurs institutions, leurs fédérations, leurs composantes, le font, mais ne le font pas peut-être d'une manière audible et d'une manière crédible. Donc il faut qu'on renforce notre communication. Il faut également qu'on mène des actions concrètes sur le terrain. Il ne faut pas juste en rester à des déclarations de principe. Et pour les actions sur le terrain, nous avons commencé à imaginer un certain nombre d'actions concrètes telles que l'élaboration d'un contre-discours, justement, ce travail au niveau théologique pour la contextualisation d'un certain nombre de versets du Coran et de hadiths, de paroles du prophète, et ce travail-là de contextualisation et de clarification auprès de notre jeunesse des vrais préceptes de la religion musulmane. Il n'y a que les musulmans qui peuvent le faire. Nous avons également appelé à la mise en place d'un Grenelle de la prévention de la radicalisation, parce que la question de la radicalisation et de terrorisme est multidimensionnelle, elle est multifactorielle. Elle concerne des acteurs d'ordre politique, économique, social et religieux. Et donc il faut que tout le monde fasse bloc, justement, pour venir à bout de ce fléau des temps modernes.
Un travail sur le terrain auquel vous appelez ce matin sur Europe 1. Merci Anne-Laure Dubech d'être venu dans le studio d'Europe 1 ce matin. Bonne journée à vous.
Merci.
Europe 1.
Et on va retrouver Anissa Mbida dans un instant pour l'innovation du jour. A tout de suite, il est 6h47.
Europe 1.
Sébastien Krebs.
Il est 7h10 sur Europe 1. Le bilan revu à 3 morts et 15 blessés après plusieurs fusillades hier soir à Vienne, en Autriche. La police a également tué un assaillant lourdement armé. C'est un sympathisant de l'État islamique, affirme le ministre autrichien de l'Intérieur. Les dernières heures de campagne aux États-Unis. Cette nuit, il est temps pour Donald Trump de faire ses valises et de rentrer chez lui, a lancé Joe Biden dans l'un de ses derniers meetings. Trump lui prédit une victoire magnifique. Et puis, le tennis, le jeune français Hugo Gaston battu hier à Paris-Bercy par l'Espagnol Pablo Carreño. Bonjour Anis Hamida.
Bonjour Sébastien Krebs.
Votre innovation du jour ce matin en cette période de pandémie. Beaucoup d'innovations en matière de désinfection. Encore un exemple avec un éclairage désinfectant. Là, c'est de la lumière qui détruit les microbes. Expliquez-nous.
Oui, et c'est une super idée. Hein. Imaginez dans les transports, les magasins, les bureaux. Tout ce que touche la lumière sera totalement désinfecté en permanence. Alors, je précise, ça n'a rien à voir avec les UVC. Vous savez, ces ultraviolets qu'on utilise dans les hôpitaux pour stériliser les chambres ou le matériel médical, parce qu'ils sont très dangereux, ils détruisent l'ADN. Donc, il ne faut surtout pas y être exposé, sinon on risque d'attraper un cancer. Non, là, il s'agit d'ampoules LED classiques, mais qui produisent un éclairage antibactérien sans aucun danger, ni pour les humains, ni pour les animaux, ni pour les plantes. Et c'est ça qui est très nouveau.
Alors, comment ça marche? Comment tout ça est possible?
Bon, en fait, il se trouve que dans certaines longueurs d'onde, du côté du violet, on arrive à provoquer pas mal de dommages dans les cellules des bactéries comme la salmonelle, la listeria ou les staphylocoques. Et c'est une technique que la start-up Vive a optimisée pour éliminer encore plus de germes et pour pouvoir fonctionner avec la lumière blanche. Leurs ampoules ont été certifiées antibactériennes en usage continu illimité en présence d'humains. Elles seront bientôt installées dans le métro de New York et dans les toilettes des avions de la compagnie Delta Airlines. Alors, il faut quand même préciser qu'il leur faut plusieurs heures pour détruire les microbes, alors qu'avec les UVC, ça prendrait que quelques minutes. Ensuite, la technologie n'a pas été testée sur la Covid. Mais avouez que ce serait déjà quand même un grand pas en avant que d'arriver à désinfecter toute une pièce et ce qu'il y a dedans en permanence, rien qu'avec l'éclairage.
Rien qu'en allumant la lumière. L'innovation du jour, signée Anis Hamida. À demain.
La Caisse d'épargne vous présente la revue de presse internationale. Caisse d'épargne, vous êtes utile.
Et à 6h52, on ouvre votre revue de presse internationale. L'actualité telle qu'elle est vécue ailleurs sur la planète. On va commencer en Italie ce matin avec vous, Blandine Hugonnet. Bonjour.
Bonjour Sébastien.
Qu'est-ce qui fait la une chez vous?
Eh bien ici, c'est le nouveau tour de vis annoncé pour demain en Italie. La presse reprend ce matin les mesures présentées par le président du Conseil. On se dirige vers un couvre-feu national, prévient le Messaggero, mais aussi la fermeture des centres commerciaux le week-end, la fermeture des musées et les cours à distance à partir du lycée. Les soins intensifs sont bientôt saturés dans les trois quarts du pays, explique le Corriere, qui soutient que ces nouvelles règles sont donc nécessaires. Sauf que ce tour de vis ne sera pas le même pour tout le territoire, comme le précise Il Fatto Quotidiano. Le gouvernement italien veut localiser les restrictions. Plus l'évolution des contaminations sera critique dans une zone, plus les mesures y seront sévères avec des reconfinements ciblés. Première région concernée selon la Repubblica, la Lombardie, le Piémont et la Calabre qui pourraient bien devenir les prochaines zones rouges italiennes.
Blandine Hugonnet à Rome pour Europe 1. Bonjour Sébastien Le Belzic, vous êtes déjà avec nous depuis la Chine. C'est notre deuxième étape ce matin. De quoi parle-t-on à Pékin ?
À la une de l'actualité aujourd'hui, ce sont les 7 millions d'agents du recensement déployés en Chine, une opération de grande envergure dans le pays le plus peuplé du monde. Pour le China Daily, c'est un moment crucial pour la Chine. Il faut compter tout le monde pour pouvoir mettre en place les objectifs du gouvernement. Les journaux sont donc mis à contribution pour rassurer ceux qui s'inquiètent notamment de l'utilisation d'une application sur téléphone portable pour que chaque foyer puisse s'enregistrer en parallèle. Il n'y a pas de risque pour vos données personnelles, tente de rassurer le quotidien de Pékin. L'opération a lieu tous les 10 ans, rappelle l'agence Chine Nouvelle, mais cette année elle est importante car elle doit permettre de savoir si l'abandon de la politique de l'enfant unique a permis de relancer les naissances, ce qui apparemment n'est pas le cas. Le taux de natalité étant au plus bas depuis 70 ans, Chine souligne le magazine Sixton.
Sébastien Le Belzic, correspondant d'Europe 1 à Pékin. Et nous terminons notre tour du monde ce matin en Grande-Bretagne. Bonjour Anaïs Cordoba.
Bonjour Sébastien.
Qu'est-ce qu'on lit dans les journaux à Londres?
Alors, en une de la presse britannique ce matin, la défaite de Johnny Depp dans son procès en diffamation contre le tabloïd The Sun. Dans un article en 2018, The Sun accusait Johnny Depp de multiples attaques très violentes sur son ex-épouse, l'actrice américaine Amber Heard. Pour le juge, ces accusations sont avérées. Johnny pourri, titre Métro. La carrière de Johnny Depp est finie, prédit le Télégraphe. Alors l'acteur sera-t-il gardé au casting d'Animaux Fantastiques, son prochain film inspiré d'une œuvre de J.K. Rowling, l'auteur d'Harry Potter? Gros point d'interrogation. Pour le Times, c'est J.K. Rowling, elle-même victime de violences conjugales, qui pourrait décider du sort de l'un des acteurs les plus puissants d'Hollywood. Pour les commentateurs, la décision prouvera ou non la solidité du mouvement MeToo.
Anaïs Cordoba en Grande-Bretagne pour Europe 1. Nous étions à Londres, à Pékin, à Rome ce matin dans votre revue de presse internationale.
Europe 1.
À suivre, la météo de Laurent Cabrol, le journal d'Hélène Zellani. Mathieu Bélière s'installe pour le 7-9. A tout de suite sur Europe 1, il est 7h05.